Les sermons figurant sur cette cassette ont été traduits du livre « Sermons de William Branham » édité par The Voice of Healing, Gordon Lindsay, éditeur. Ces sermons ont été à l'époque, et avec l'agrément de Frère Branham, abrégés et corrigés. Premier message. Crois-tu cela? Jean 11, versets 18 à 27. Le Seigneur Jésus-Christ avait laissé son échoppe de charpentier à Nazareth. Son ministère avait grandi et des foules considérables le suivaient. Il avait un ami nommé Lazare qui vivait avec Marthe et Marie ses sœurs et il logeait chez eux. Il est bon d'avoir des amis. Nous devrions nous traiter les uns les autres comme des fils et des filles de Dieu. La vie de notre Seigneur Jésus-Christ était étrange. Bien des enfants de Dieu auxquels le Seigneur a donné ses dons ont eu des vies peu communes. Regardons dans la parole de Dieu. Elle nous parle du précurseur de Jésus, Jean-Baptiste, et de sa naissance. C'est l'archange Gabriel qui a parlé de sa naissance. Lorsque Dieu envoie Gabriel, vous pouvez être certain que quelque chose va arriver. Gabriel a annoncé la première venue de Jésus-Christ. Peut-être annoncera-t-il la seconde venue du Seigneur. Les anges de Dieu s'intéressent à nous et à ce qui se passe dans nos vies. Si vous aviez autant d'intérêt qu'eux, tout pourrait arriver pour vous. Dieu envoya Jean-Baptiste, messager de la première venue de Christ. Je crois qu'il enverra un messager pour la seconde venue du Seigneur. Son œuvre sera la restauration des dons à son Église par le Saint-Esprit. Je le crois, et vous pouvez remarquer que cela est déjà en train de s'opérer. L'ange apparut à Zacharie, le père de Jean, et lui annonça la naissance d'un fils, mais Zacharie ne pouvait pas comprendre. Il était vieux et hors d'âge de concevoir. Il douta. Mais lorsque Dieu décide une chose, cette chose arrive et rien ne peut l'empêcher. Je crois que Dieu est prêt à manifester une église lavée dans le sang, dans laquelle les dons de l'Esprit soient restaurés. Je ne sais pas comment cela se fera, mais je sais que Dieu va le faire. Parce que Zacharie a douté, il fut frappé de mutisme. Il rentra chez lui et il ne put parler que lorsque l'enfant fut né. 6 mois plus tard, l'ange Gabriel descendit dans la ville de Nazareth. C'était probablement une des pires villes du monde de ce temps-là. Nathanaël déclara, « Quelque chose de bon pourrait-il venir de Nazareth ?» Philippe répondit, « Viens et vois. » Remarquez que l'ange est descendu dans cette cité perverse de Nazareth parce qu'une petite jeune fille de la ville avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Où que vous soyez, si vous pouvez trouver grâce devant Dieu, il viendra à vous. Contemplons cette scène un instant. L'ange Gabriel apparut à Marie et lui dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, sois bénie entre les femmes. » La petite Vierge Marie a certainement été effrayée de voir cet ange magnifique devant elle. Cela vous effrayerait aussi et moi également. Mais quelle différence entre Zacharie et Marie. Lorsque cet ange apparut au sacrificateur prêtre de l'Ancienne Alliance, Zacharie mit en doute ses paroles. Mais la petite Vierge Marie crut. Parmi les gens qui s'avancent pour la prière, ceux qui sont guéris, ceux qui sont l'objet d'un miracle, sont souvent les enfants. Ils croient ce qu'on leur dit. Les gens se nourrissent d'une littérature malsaine, d'histoires soi-disant vraies. Comment peuvent-ils être guéris, ayant l'esprit rempli de ces fadaises? Ainsi, Zacharie ne put croire. Cependant, cela n'aurait justement pas dû lui être difficile. Le miracle qui lui était promis s'était déjà produit auparavant. Abraham avait engendré un enfant dans sa vieillesse. Dans le cas de la Vierge Marie, la naissance d'un fils à une vierge ne s'était jamais produite. Elle ne se reproduirait jamais. Pourtant, elle crut. Elle prit Dieu au mot. Elle n'attendit pas que le bébé soit né pour se réjouir. Elle commença sur le champ à louer Dieu. Pour être guéri, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'on ait prié pour vous. Commencez maintenant à croire. Dieu honorera sa parole. Le jour de la Pentecôte, ceux qui étaient assemblés avaient loué Dieu pendant plusieurs jours avant la descente du Saint-Esprit. On ne vous demande pas de croire quelque chose de très difficile. Chaque soir, vous voyez s'opérer des guérisons devant vous. Les sourds sont guéris. Les yeux atteints de strabisme sont redressés. Les jambes plus courtes s'allongent. Sûrement, vous pouvez croire pour vous-même ce que vous voyez arriver chaque soir. La parole de Dieu dit, « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Croyez-le sur parole et ne dites pas, « Je ne me sens pas mieux. » Cela n'a aucune importance. Prenez Dieu au mot. Ce n'est pas ce que vous sentez ou ce que vous voyez qui compte, mais ce que vous croyez. Je me suis souvent demandé quelle sorte d'homme était Jean-Baptiste. Il n'était pas sorti d'une école de théologie, mais il avait pris un cours de genouxologie et il prêcha Christ. Christ est le plus grand atout du monde aujourd'hui. Et moi, lorsque j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean-Baptiste était un homme sans crainte. Il n'eut pas peur de dire au roi qu'il était adultère. Il ne se prêchait pas lui-même. Il disait, « En vérité, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier ses souliers. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Les pharisiens n'aimaient pas Jean-Baptiste. Il disait, « Croyez-vous donc qu'on en vienne à supprimer les sacrifices et les offrandes ? Impossible !» Mais Jean répliquait, « Un homme vient qui ôtera le péché du monde. » Rappelez-vous que ce même déluge qui détruisit le monde antédiluvien sauva Noé et sa famille. Et le même Saint-Esprit qui enlèvera le peuple de Dieu condamnera ceux qui blasphèment les miracles qu'il opère. Car le blasphème contre le Saint-Esprit n'a pas de pardon dans ce monde, ni dans le monde à venir. L'Église qui marche au travers du tunnel de la critique est sur le point de déboucher dans les parvis de Dieu. Et le monde assiste à cela, et il la voit qui passe. Comment Jean-Baptiste connut-il Christ quand il le vit? Ce fut par un signe. Dieu avait dit à Jean-Baptiste, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Jean 1,33. Vous pouvez connaître l'Église de Jésus-Christ au moyen d'un signe. Et voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Marc 16, versets 17 et 18. Si votre Église ne croit pas cela, trouvez-en une qui y croit. Pourquoi Jean-Baptiste était-il si grand? Jésus a dit qu'entre ceux qui sont nés de femmes, il n'en est pas paru d'aussi grand que lui. Moïse était grand, Enoch aussi, de même qu'Élie et Daniel. Ils ont tous parlé de la venue de Christ. Mais c'était à Jean-Baptiste qu'il fut réservé de présenter Christ au monde. Il fut le prédicateur dont la voix inaugura le ministère de Jésus. Il n'avait pas une large robe, elle n'était pas docteur en théologie, mais il prêchait l'ultime examen indiqué par le Seigneur, se servant des bords boueux du Jourdain comme cathédrale. Les pharisiens qui regardaient refusaient de l'accepter. Mais néanmoins, le travail de Dieu avançait. Remarquez que ce fut sur les rives sales du Jourdain que Jésus apparut. Il entra dans les eaux boueuses et fut baptisé par un homme qui n'était même pas vêtu d'un habit correct. C'est ce que le monde aurait appelé du fanatisme stupide. Mais ce que le monde appelle stupide, Dieu l'appelle grand. Et ce que le monde appelle grand, Dieu l'appelle folie. Vous savez que vous ne voyez pas avec vos yeux, vous regardez avec les yeux, mais vous voyez avec le cœur. Christ a dit à Nicodème, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, 3. Alors, avec ses yeux naturels, un homme ne peut pas voir le royaume de Dieu ici-bas. Vous ne pouvez pas voir le royaume tant que vous n'êtes pas dans le royaume. Lorsque j'étais petit garçon, j'avais l'habitude de courir avec d'autres camarades jusqu'à la piscine pour voir qui l'atteindrait le premier. J'étais si pauvre et si misérablement vêtu que généralement j'étais le premier dans l'eau. Je n'étais pas embarrassé d'une chemise ou d'autres vêtements, de sorte qu'en laissant tomber mon pantalon, je plongeais dans l'eau. Si l'eau était froide, nous levions un doigt. S'il était bonne, nous levions deux doigts. Ami, je peux vous dire aujourd'hui que je lève deux doigts. L'eau est bonne. Venez et plongez et recevez cette bénédiction du Saint-Esprit. Après que Christ fut baptisé dans l'eau et qu'il eut reçu le Saint-Esprit, il fut poussé par l'Esprit dans le désert où il fut tenté. Après que nous aurons prié pour vous, pour votre guérison, vous serez aussi tenté. Parfois, tout ce dont vous aurez souffert essayera de revenir sur vous. Jésus l'a dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans un lieu désert, cherchant du repos, n'en trouvant pas, il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti, et revenant, il la trouve balayée et ornée. Alors il part, prend cet autre esprit plus méchant que lui, et ils entrent dans la maison, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Le diable tente toujours les gens dans le domaine où ils sont les plus faibles. Ainsi Jésus eut faim et le diable le tenta. Moïse était emporté et le diable l'attaqua sur ce point. Je ne sais où il essayera de vous tenter, mais il vous attaquera là où vous êtes le plus vulnérable. J'ai boxé, j'ai même gagné le championnat des poids moyens et je n'avais jamais été battu sur ce terrain lorsque j'ai commencé mon ministère. J'étais rapide à la boxe. Je ne pouvais pas taper très dur, mais d'un bond, j'évitais l'adversaire. Je ne regardais ni ses pieds, ni ses mains, mais je surveillais ses yeux. Je voyais où il regardait, et ainsi je pouvais parer. Puis, lorsque j'avais découvert son point faible, je m'y acharnais. C'est la tactique de Satan. Il trouve le défaut de la cuirasse, et il attaque aussi fort qu'il peut. Si c'est de l'incrédulité, il chargera sur ce point, et il persévérera pour vous affaiblir. Les retards de Dieu ont toujours un but. Lorsque Jésus sortit du désert, les signes et les miracles commencèrent à le suivre. Il demeurait chez Lazare lorsqu'il était près de Jérusalem, mais lorsqu'il allait plus loin, il devait quitter ce foyer. Un jour qu'il était parti, la maladie entra dans la maison. Lorsque Jésus quitte votre maison, alors la maladie entre, la déception, la tristesse et la pauvreté suivent. Dans le cas qui nous occupe, ce n'était pas parce que Jésus avait été chassé de ce logis, mais parce que son œuvre l'avait appelé ailleurs. Et tout cela avait un but. Le Père avait déjà montré à son fils ce qui allait arriver. On envoya chercher Jésus pour qu'il priât pour Lazare. Apparemment, il n'y donna pas suite. Que feriez-vous aussi ? Faisant chercher votre pasteur pour qu'il vienne et prie pour vous, il ne donnait pas suite à votre requête. Vous diriez sans doute, c'est bon, je chercherai une autre église. Votre impatience peut être justement la chose qui empêche Dieu d'agir en votre faveur. Honorez l'homme qui vous prêche la parole de Dieu. Après un temps, Jésus dit, Lazare, notre ami, dort. Ses disciples ne purent pas comprendre. Ils dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Et ils retournèrent à Béthanie. Dans le foyer des deux sœurs, l'heure était sombre. Il semblait que leur ami leur avait fait défaut. Le docteur avait pris son courage et il avait déclaré, « Je ne peux plus rien faire pour lui. » Les voisins s'étaient assemblés. On avait averti Jésus, mais il n'était pas venu. Les ténèbres tombèrent sur la petite maison. Lazare mourut. On le porta dans le tombeau, on roula la pierre, et le premier jour passa. Les gens de Jérusalem vinrent dans la petite maison pour pleurer le mort. Le deuxième jour passa, le troisième jour passa, le quatrième jour passa. Le corps de Lazare commençait à se décomposer. Quelle heure sombre pour les habitants de la petite maison, probablement la plus sombre que les deux sœurs eussent jamais vécue. Peut-être avez-vous connu de ces heures sombres, mais juste à l'heure la plus noire, Jésus arriva. Aujourd'hui, c'est peut-être l'heure la plus sombre pour vous. Vous avez peut-être un cancer. Le docteur a dit que vous alliez mourir. Rappelez-vous, à l'heure la plus noire, Jésus passe. J'ai connu une heure très sombre lorsque j'étais à l'hôpital de Louisville, Kentucky. Le docteur me dit que j'avais encore 3 minutes à vivre. Mais Dieu soit loué, Jésus passa. Est-ce que je l'aime de tout mon cœur? Ma reconnaissance ne pourra jamais être assez grande envers lui. Marthe sut que Jésus est arrivé, et elle alla vers lui. Nul doute qu'en route, elle croisa des gens qui murmuraient, « Cette pauvre femme avait mis sa confiance dans ce prédicateur, et maintenant, voyez ce qui est arrivé. Quand Lazare est mort, c'est alors qu'il revient. » Mais elle passa outre. « Ne vous laissez pas arrêter par les sceptiques et les moqueurs. Passez outre, comme le fit Marthe, jusqu'à ce que vous arriviez à Jésus. » Elle aurait pu dire, « Ô Seigneur, regarde, nous avons laissé beaucoup de choses pour te suivre, et maintenant, pour une fois que nous t'avons fait appeler, tu nous as fait défaut, nous sommes déçus. » Si elle avait dit cela, le miracle ne se serait jamais produit. Non, elle se précipita vers Jésus et dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, Seigneur, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Il en est qui, la tête haute et plein d'orgueil, demande que l'on prie pour eux. Si vous êtes dans cet esprit-là, vous feriez tout aussi bien de ne rien demander. Bien qu'aux yeux de Marthe tout paraissait perdu, il semblerait qu'elle avait cependant l'impression que quelque chose allait se passer. Elle dit, « Mais maintenant même, Seigneur, peut-être dites-vous, j'ai un cancer, mais ne pouvez-vous pas dire aussi, « Mais maintenant même, Seigneur, tu peux me guérir de ce cancer. » Vous dites que vous boitez depuis 30 ans, « Mais maintenant même, Seigneur, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Quand recevrai-je la guérison? Maintenant même, Seigneur. Écoutez, le même Christ qui a parlé à Marthe est assis à la droite de Dieu avec toute puissance dans les cieux et sur la terre. Maintenant même, Seigneur. Jésus dit à Marthe, ton frère ressuscitera. Marthe lui répondit qu'elle savait que son frère ressusciterait à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Jean 11, 25. Un petit homme, frêle sur la terre, avait le pouvoir de donner la vie aux morts. Il en avait l'autorité. Il était le « je suis », non le « j'étais ». Crois-tu cela? C'était là le moment crucial pour Marthe. Elle ne pouvait pas comprendre tout ce que cela signifiait, mais néanmoins, elle crut. Elle dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir au monde. » Jésus vit les larmes et la douleur. Marie entra et elle dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'en était trop. Jésus lui-même fut ému et troublé. « Où l'avez-vous mis ? » Maintenant, quelque chose doit se passer. Il se rend au tombeau. Un jour, une femme m'a dit, « Cela montre seulement que Jésus n'était qu'un être humain, car lorsqu'il s'enfuit au tombeau, il pleura. » Oui, je sais, lorsque Jésus pleura au tombeau, il était un homme, mais lorsqu'il ramena un mort à la vie, il était Dieu. Lorsqu'un jour, il chercha des figues sur un figuier parce qu'il avait faim, il était homme. Mais quand il prit 5 pains et nourrit 5 000 personnes, il était Dieu. Crois-tu cela? Avant de prononcer le mot qui devait ressusciter Lazare, Jésus pria le Père et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Lazare était toujours dans le tombeau, et cependant il remerciait Dieu qu'il avait déjà exaucé. Pouvez-vous remercier Dieu de votre guérison avant de voir ou de sentir quelque chose? Si vous le pouvez, alors c'est la foi. Il n'y avait plus place pour la foi après la résurrection de Lazare, mais il fallait une foi réelle à Christ pour remercier Dieu d'avoir déjà exaucé sa prière alors que Lazare était toujours immobile dans la tombe. Jésus cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit. Je crois que si Jésus n'avait pas spécifié Lazare, tous les morts seraient sortis des tombeaux. Frère, Christ a la puissance de te faire sortir de tes ténèbres et de ton désespoir et de te donner une nouvelle vie en lui. Le crois-tu? Alors tu seras guéri. Message numéro 2. Sentinelle, où en est la nuit? Prophétie au sujet de Douma, Ésaïe 21, versets 11 et 12. On me crie de Séir, sentinelle, où en est la nuit? Sentinelle, où en est la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez m'interroger, posez-moi des questions, retournez, revenez. Nous vivons des temps périlleux. Il y a des guerres et des bruits de guerre, et le jugement arrive. Cette génération verra s'accomplir toutes choses. Lorsque Christ, dans Matthieu 24, parlait de sa venue, il avait accompli l'œuvre de la croix, et l'ère de la prédication de la bonne nouvelle s'achevait. Pendant ce laps de temps, le Saint-Esprit était descendu, et il avait préparé son peuple pour sa seconde venue. Lorsque Jésus reviendra une seconde fois, avec puissance et gloire, pour recevoir son Église, ce sera le moment le plus glorieux. Je réalise que des dizaines de milliers de personnes sur la terre entière sont attentives et soupèsent chaque mot. Je dois être très consciencieux dans mon exposé. Je ne voudrais pas dire un seul mot dont j'aurais à rougir de honte au jour du jugement. Je désire vous parler à cœur ouvert. Je crois que si Dieu était avec nous maintenant sous une forme visible pour s'adresser à nous, il nous rendrait attentifs et il nous parlerait de la seconde venue de Christ. Les heures sont toujours plus sombres. De grands ismes s'agitent sur la terre. Les choses dont Jésus parlait juste avant de monter sur la croix s'accomplissent sous nos yeux. Les prophéties de l'Ancien Testament et celles du Nouveau Testament se réalisent rapidement. Bien des prophéties concernant Christ furent accomplies dans les dernières heures de sa vie. De nouveau, nous vivons un temps d'accomplissement prophétique. Il m'a été rapporté que bien des Juifs qui sont retournés en Palestine avaient lu pour la première fois le Nouveau Testament. Ils disaient, si Jésus est le Messie, qu'il accomplisse le signe d'un prophète et nous l'accepterons. Je prie Dieu, s'il le permet, de me diriger à Jérusalem et que sa puissance descende sur cette ville, comme elle est descendue en Amérique et dans d'autres pays. Car Jésus peut prouver qu'il est le prophète. Il peut accomplir les choses qu'il faisait dans les jours anciens. J'espère voir un réveil qui, en déferlant sur le monde, poussera des dizaines de milliers d'âmes dans le royaume de Dieu. J'ai aussi appris que l'étoile à six branches de David, qui serait le plus ancien étendard du monde, flotte à nouveau sur Jérusalem, pour la première fois depuis 2500 ans. Les Juifs sont ce figuier dont Jésus parlait dans Matthieu 24. Nous savons que cette génération ne passera pas que toute chose soit accomplie, car nous sommes la seule génération ayant vu le figuier reverdir. Je crois que cette génération-là verra Jésus-Christ revenant en gloire et en majesté. Quand nous voyons la paix instable et contestée, les cœurs remplis de peur, la perplexité des temps, la calamité entre les nations, tout ce qui se passe, il est convenable de demander, comme au temps d'Ésaïe, « Sentinelle, où en est la nuit ?» Dans l'ancien temps, la sentinelle, quand il faisait sombre, montait l'escalier, entrait dans la tour et calculait le temps en regardant le ciel étoilé. Je peux me représenter dans la ville de Jérusalem et au temps d'Ésaïe, un homme par une nuit chaude. Il ne peut rester en place. Il est dans l'attente du jour qui vient et il crie, sentinelle, où en est la nuit? C'est une image pour notre époque. Hommes et femmes vivent sous l'emprise du péché et de sa puissance. Le démon les a trompés. Il existe une inquiétude. Le cœur des hommes est dans la crainte en pensant aux choses qui vont venir sur la terre et en voyant les prophéties s'accomplir. Le cri retentit. Sentinelle, où en est la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Quelle nuit! La détresse est sur le pays. Le communisme déferle sur la terre et il y a des guerres et des bruits de guerre. Les hommes parlent de paix, mais quand ils diront paix et sûreté, alors viendra une ruine subite. Le monde est mûr pour la destruction. Quand les gens refusent de connaître la vérité, quand ils tournent le dos aux choses de Dieu, qu'ils appellent la puissance de Dieu superstition, qu'ils désirent une religion formaliste, je pense que c'est le moment d'avoir un bon vieux réveil venant d'en haut, comme il y en eut un au temps d'Élie. Élie regarda en haut, vers les cieux, pendant 3 ans et demi. Tout le ciel paraissait d'airain. L'airain dans la parole de Dieu typifie le jugement. L'autel d'airain, le serpent d'airain. Le serpent était un symbole du péché et l'airain parlait du jugement divin. Le jugement divin était sur Israël, car il était devenu un peuple incrédule, ayant tourné le dos à la vérité, au Dieu vivant, pour adorer les dieux païens et les idoles. L'Amérique est une des plus grandes nations du monde. Elle a des contrées riches, parmi les meilleures de la terre, mais la doctrine communiste a sapé les fondations de la nation, et aujourd'hui, sa condition est précaire. Le péché abonde de toutes parts, et les ténèbres s'installent partout. Comme du temps d'Élie, les femmes sont fardées à la ressemblance de Jézabel. Un pasteur me fit entrer dans une église pour me présenter sa femme. Elle était assise, les cheveux coupés, frisés et décolorés, de gros clips clinquants pendaient à ses oreilles. Il me semblait que le démon en personne était derrière elle et qu'elle était l'étrier de sa selle. Il me dit, « Frère Branham, je désire vous présenter ma femme. C'est une sainte. Je la regardais et pensais, elle ressemble plus à une prostituée qu'à une sainte. La seule femme dans la Bible qui fardait sa figure pour attirer les hommes fut Jézabel. Êtes-vous ses filles? L'esprit de Jézabel vit toujours. Dieu prend l'homme, mais le diable aussi, or l'esprit reste sur la terre. L'esprit qui était en Abel et celui qui guidait Caïn nous conduisent droit à Christ ou à l'Antichrist. Souvenez-vous de ce qui arriva à Jézabel. Elle fut dévorée par les chiens. Nous avons besoin aujourd'hui d'un ancien et véritable contact avec le Saint-Esprit, par lequel nous serons sondés et étriés. La Bible nous avertit de prendre garde qu'aucune racine d'amertume ne s'installe en nous. Au sud d'une contrée où je me trouvais, il y avait une belle source, et je désirais m'y désaltérer. Je pouvais dire que l'eau était potable, car elle était claire. Mais quelquefois, le cochon du fermier se sauvait et venait se vautrer dans la source, alors l'eau était boueuse. Je peux vous dire, frère, que parfois quelque chose se produit dans l'église où se trouve l'Esprit Saint. Il semble que les cochons sont entrés dans le fleuve et qu'ils en ont souillé l'eau. Le baptême du Saint-Esprit nous change, nous fait agir et voir différemment. Dieu sépare et place son peuple hors du péché. Voyez en Égypte, Dieu sépara le peuple, faisant une différence entre son peuple et le monde, les Israélites et les Égyptiens. Aujourd'hui, il doit y avoir une différence entre le peuple de Dieu et le monde. Quand un homme est né de nouveau, le sang de l'agneau a effacé à jamais ses péchés. Cela l'a séparé du monde, et il devient alors une nouvelle créature en Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Élie était prêt pour un réveil. Que fit-il en premier lieu? Il dit au peuple d'appeler tous les prêtres idolâtres sur la montagne. Et alors il dit, si Dieu est Dieu, suivez-le. Mais si c'est Baal, suivez-le. Selon 1 Roi 18-21. Nous sommes dans la même position aujourd'hui. Pourquoi la Russie communiste est-elle ce qu'elle est aujourd'hui? Parce que ceux qui se réclament de la religion ne sont pas différents de ceux qui sont dans le monde, prenant l'argent du peuple et ne lui donnant rien en retour. Et lui disait, « Approchez-vous, prophète de Baal, prophétisez, et le Dieu qui répondra par le feu sera Dieu. » Cela semblait une folie à Achab. Élie était seul en face de tous les prophètes de Baal. Achab avait confiance en son épée, son armée et ses dieux. Laissez-moi vous dire une chose. Maudite soit la nation qui met son espoir dans ses armements au lieu de la placer en Dieu. Je peux voir David, Goliath, se tenant chacun sur un versant de la montagne. Goliath avait tous les avantages sur David. Il était un guerrier. Il avait son armure, son bouclier et sa lance. Il disait qu'il était l'homme le plus fort parmi tous les autres et que personne ne pouvait le battre. C'est exactement l'attitude actuelle des nations avec leur course aux armements, aux avions et aux bombes atomiques. Mais le petit David vint contre Goliath. Saül disait, « Tu es trop jeune, et il est un homme de guerre dès l'enfance. » David répondait à Saül, « Moi, ton serviteur, gardais les brebis de mon père, et lorsqu'il venait un lion ou un ours enlever une brebis du troupeau, je sortais après eux, les frappais, et j'arrachais la brebis de leur gueule. » Et comme ils se levaient contre moi, je les saisissais par la mâchoire, les frappais, les tuais. Il disait à Saül que si Dieu lui avait donné la puissance sur eux, combien plus il la lui donnerait contre ce Philistin circoncis. Je préfère espérer en Dieu et n'avoir aucune armure des hommes lorsque les bombes atomiques tomberont sur le monde. David essaya de marcher avec l'armure de Saül. Vous représentez-vous ce jeune homme dans cette armure de 7 pieds, c'est ce qui se fait aujourd'hui lorsqu'on envoie un prédicateur au loin. Il est dirigé au séminaire où on commence par l'embaumer. Vous connaissez ces vieilles églises froides, rappelant une morgue, renfermant toute une série de membres morts. De là, les prédicateurs semblent dégager une sorte d'émanation soporifique. Bientôt, tout est mort. Je peux voir David essayant l'armure du roi Saül et disant, je ne comprends absolument rien à cette sorte d'engin. Je ne l'ai pas expérimenté. Je souhaite qu'il y en ait beaucoup qui puissent témoigner d'expérience. Le salut n'est pas une connaissance géologique, mais il s'acquiert à genoux. Je peux voir David qui s'avançait, le géant qui disait, « T'imagines-tu venir ici pour te battre avec moi? Je donnerai ta viande aux oiseaux des cieux et aux animaux des champs. » David répliquait, tu es venu avec le bouclier, la lance et l'épée, mais je suis venu au nom du Dieu d'Israël. La plus puissante arme dans le monde est le nom souverain du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons dans ce récit que le petit David courut en avant avec sa fronde et ramassa 5 pierres. Il les mit dans sa fronde et alla à la rencontre du Philistin. 5 pierres, 5 doigts, balançant la fronde, Jésus, la foi, fait en anglais. David lança une pierre et le Philistin tomba mort sur le terrain. Alors Élie dit à tout le monde, approchez-vous de moi et voyez qui est Dieu. Il prit 12 pierres, une pour chacune des tribus des enfants d'Israël. Il rebâtit l'autel du Seigneur qui avait été démoli. Aujourd'hui, l'autel du Seigneur nécessite des réparations. La bière et les cartes ont pris la place de l'ancien autel de l'Éternel. Chacun a à réparer pour son propre compte. L'Amérique ne peut pas être sauvée à moins qu'elle ne reconstruise chez elle l'autel de l'Éternel. Des temps difficiles viennent. Les troubles sont sur chaque pays. Quand nous étions en Finlande, les gens nous disaient, « Regarde, Amérique, cela t'arrivera. » Ils nous parlaient de bases aériennes, d'abris souterrains à leurs frontières. Les trains traversant le pays avaient les fenêtres obscurcies. Il se pourrait qu'il arrive un jour où en Amérique, 1 million de gens soient tués en quelques minutes. Le jugement est à la porte. Dieu ne détruit pas, Dieu sauvegarde. Mais l'homme, par sa connaissance, se détruit lui-même. Dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres. L'un était l'arbre de la vie, l'autre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsque l'homme laissa l'arbre de la foi et qu'il mangea de l'arbre de la connaissance,
Il se détruisit lui-même. C'est le moment de crier « Sentinelle, où en est la nuit ?» Comme la sentinelle dont il est parlé dans la Bible montait dans la tour pour veiller et regarder le ciel afin de connaître l'heure de la nuit, nous avons une sentinelle qui a escaladé les cieux et s'est assise à la droite de Dieu. Cette sentinelle est Jésus-Christ et il nous dit que la nuit vient. Il y a quelque temps, je me trouvais dans les montagnes du Colorado, guettant un aigle. Cet aigle adulte parlait à ses petits qui étaient au nid, c'était la femelle. Elle déploya ses ailes, et avec ses petits cachés dans ses plumes, elle descendit dans une riche prairie. Les petits commencèrent à courir tout autour d'elle, en criant, mangeant de l'herbe, ayant une bonne détente. La mère s'envola et se posta sur le plus haut sommet d'alentour. Elle veillait, regardant si un coyote ou un autre animal voulait s'approcher pour faire du dégât. Je l'observais à travers une lunette d'approche. Après un moment, elle dressa sa tête puissante. Il y avait quelque chose, elle était inquiète. Elle pouvait à distance pressentir l'orage. Du nord, il vint très rapidement. Elle déploya ses ailes, elle plongea dans la vallée pour avertir ses petits du danger. Mes amis, le Père veille sur nous. Il veille sur l'Église pour la protéger et pour la prendre vers lui lorsque l'orage éclatera. Christ nous a dit, « Je vous donne le pouvoir de fouler les serpents et les scorpions et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10, 19. Mais aujourd'hui, beaucoup renient la puissance de Dieu. La parole annonce ce qui arrivera. Les gens seront imbus d'eux-mêmes, avares, vains, orgueilleux, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant une forme de piété, mais ayant renoncé à sa puissance. Éloigne-toi d'eux. 2 Timothée 3, versets 2 à 5. Quand cet oiseau vit venir l'orage, il étendit ses ailes, jeta des cris perçants et descendit par terre. Les petits aiglons posèrent leurs pattes sur ses ailes et il partit droit devant l'orage et atteignit le nid dans le rocher. Je commençais à crier, à louer Dieu. Je pensais, oui, Jésus est assis, veillant sur son petit troupeau, et un jour, il viendra un orage sur le pays. Quand la grande tribulation surviendra, et que le jugement tombera sur la terre, Jésus apparaîtra sur des ailes de gloire, et nous nous envolerons dans le rocher. Alléluia. Sentinelle, sentinelle, où en est la nuit? Elle dit, le matin vient et la nuit aussi. L'heure la plus sombre est celle précédant l'aurore. Jusqu'à ce moment-là, c'est la nuit sombre où les étoiles étincellent. Ceux qui se lèvent de bonne heure sont ceux qui voient l'étoile du matin. Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. La Bible dit à celui qui vaincra, je donnerai l'étoile du matin. Daniel dit que nous brillerons comme les étoiles à toujours et à perpétuité, possédant la lumière du soleil de justice. C'est maintenant le temps où notre lumière doit briller dans un monde de ténèbres. Avant que ne se lève le matin et que brille l'éclat du soleil de justice, les étoiles doivent faire resplendir la lumière puissante du Seigneur Jésus-Christ dans ces derniers jours. Dieu désire que sa vie en nous éclaire les ténèbres de ce monde. L'orfèvre prend l'or et le travaille avec un marteau jusqu'à ce que son image se reflète dans l'objet qu'il façonne. Lorsqu'il a enlevé les scories et toute impureté, il peut voir sa face dans le métal en fusion et il sait que l'or est au titre. Le Saint-Esprit, marteau de Dieu, a pris l'Église, les pierres précieuses de la terre et les pépites d'or, et il utilise les prédicateurs remplis de l'Esprit-Saint pour chasser le monde hors d'elle. Les scories et les impuretés sont rejetées. Mais Dieu forme un résidu, une élection, pour faire resplendir par eux la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Un missionnaire marchait dans le désert et il rencontra un infidèle. Cet homme disait, « Les coyotes étaient là la nuit passée. » Le missionnaire lui demanda comment il le savait. L'infidèle répliqua, « Voici les signes, je sais qu'ils ont passé ici. » Et Jésus a dit, voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. Nous savons, quand il y a un réveil du Saint-Esprit, car nous pouvons voir les signes. Le Christ ressuscité marche au milieu de son peuple, parmi les églises, les sept chandeliers d'or avec les étoiles dans sa main. Aujourd'hui, c'est l'époque où les étoiles doivent briller et révéler la gloire du Fils de Dieu, montrant qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y aura une paix internationale et éternelle quand le soleil de justice se lèvera avec la guérison dans ses ailes. Le jour sera venu, et ceux qui se moquent aujourd'hui auront le sort de ceux qui vivaient au jour de Noé. Ils rirent de Noé, mais pouvez-vous vous représenter leur regard lorsque l'orage fondit sur eux et que l'arche se mit à flotter? La chose même qu'ils avaient ridiculisée sauva Noé. Aujourd'hui, la chose dont le monde se moque condamnera le monde. Le Saint-Esprit enlèvera l'Église et ceux qui resteront sur la terre seront en face du jugement. Vous, dont les lumières ont lui, vous serez comme les étoiles au temps marqué. Nous sommes par la croix du calvaire des parcelles vivantes de l'étoile du matin, car nous sommes devenus chair de sa chair et eau de ses eaux, étant nés dans le royaume de Dieu et remplis du Saint-Esprit. Bientôt nous entendrons le cri, « Voici, l'époux vient, sortez à sa rencontre. » Sentinelle, où en est la nuit? La nuit est là, épaisse pour le peuple, mais le matin vient aussi. Alléluia. Message numéro 3. Jéhovah Jireh, le Seigneur pourvoira. Nous lisons dans le chapitre 22 de la Genèse un récit concernant Abraham et Isaac. Dans cette circonstance, Dieu se révéla lui-même comme étant Jéhovah Jireh. C'est le premier nom rédempteur de Dieu. Ce mot révèle que Dieu pourvoira lui-même au sacrifice. Au temps de la vieillesse d'Abraham, Dieu lui apparut et lui dit, « Abraham, marche devant moi et sois parfait. » Genèse 17, verset 1. Abraham avait 99 ans à ce moment-là, et sa force était diminuée. Dieu lui dit ainsi qu'à Sarah, sa femme également âgée, qu'ils auraient un fils, et que par cette semence, la bénédiction atteindrait toutes les nations. Pouvez-vous concevoir qu'un homme et une femme de cet âge puissent procréer? Dieu aime les personnes âgées. L'impossible devient possible lorsque Dieu est cru sur parole. Le Seigneur apparut à Abraham comme Dieu Tout-Puissant. Le mot hébreu est El Shaddai, signifiant poitrine. Abraham disait, « Je suis un homme âgé et ma force en est allée. » Mais Abraham, je suis la poitrine, couche-toi sur mon sein, et je te rendrai fort pour que tu puisses avoir cet enfant. Que c'est merveilleux! Et ce même Dieu d'Abraham est notre Seigneur aujourd'hui. Il est le Dieu Tout-Puissant. Je ne connais pas l'état de gravité de votre cas. Un cancer n'est qu'un rien pour Dieu si vous voulez seulement le croire et vous reposer sur sa promesse. Il s'écoula 25 ans entre la promesse faite par Dieu Abraham et son accomplissement. Pensez à cela, 25 ans. Je vous demande de croire et d'accepter Jésus comme celui qui guérit. Je vous prie de le croire et de tenir bon, vous appuyant sur la promesse que vous serez bien. Si vous n'êtes pas mieux dans les quelques jours qui suivront, direz-vous, je ne crois pas que mes yeux s'amélioreront, ou je ne crois pas que je marcherai mieux. Ce serait la raison pour laquelle vous ne pourriez pas obtenir ce que vous avez demandé. Si vous acceptez la promesse de Dieu, ne la lâchez pas. Je ne connais pas l'intervalle de temps entre la promesse et son exaucement. Installez-vous en elle. Un frère, William D. Upshaw, attendit 66 ans et Dieu confirma sa promesse. Il y a plusieurs années, je dus être transporté à la clinique Mayo à la suite d'un épuisement complet. J'avais de la peine à réaliser où je me trouvais. Tous ceux qui m'examinèrent dirent, « Vous êtes perdu, vous ne pouvez pas en réchapper. » Mais le Dieu Tout-Puissant me visita et me dit, « Tu te relèveras et tu seras mieux que tu ne l'as jamais été. » Je crus Dieu et aujourd'hui je suis en meilleure santé que je ne l'ai jamais été dans toute ma vie. Auparavant, je n'avais jamais dépassé 60 kilos. Maintenant, je pèse 70 kilos. Ce ne fut pas ce que les docteurs prévoyaient, mais ce que Dieu avait dit. Je me rendis un jour dans un établissement pour visiter un jeune homme, un fils unique. Il était miné par une fièvre due à son cœur malade. L'électrocardiogramme montrait qu'il allait mourir. Les infirmières ne voulaient pas me permettre d'entrer. Je demandai au docteur, « Êtes-vous chrétien ?» Il répondit, « Je suis catholique. » Je lui dis, « Laisseriez-vous entrer un prêtre auprès de lui ?» Il répondit, « C'est différent. Nous le laisserions entrer pour les derniers sacrements. » Je répliquais, « Oui, c'est différent. Le prêtre entrerait pour apporter les derniers sacrements avant qu'il meure. Je désire entrer pour prier pour sa vie. » Nous avons discuté. Finalement, il me fit enfiler une robe, me mit un masque et me fit laver les mains dans un désinfectant. Puis, je pus pénétrer dans la chambre du jeune homme. Son père, un ancien, y était assis et il me dit, « Frère Branham, que puis-je faire ?» Je répondis, « Seulement garder la foi en Dieu. » Je m'agenouillai et me mis à prier, mais il n'y avait pas de changement. Puis un instant après, j'eus une vision et je vis le garçon qui se portait bien. Je dis, « Monsieur, ce garçon vivra. » Il répondit, « Merci Seigneur, merci !» Sa femme et lui tombèrent dans les bras l'un de l'autre, s'embrassèrent et commencèrent à se réjouir. L'infirmière entra pour nous faire sortir. Elle dit, « Monsieur, vous ne paraissez pas comprendre ce que le docteur a déclaré. Il dit que l'enfant va mourir. Il n'en a plus que pour quelques minutes. » Le père répétait, « Alléluia! Alléluia !» L'infirmière demanda, « Monsieur, n'avez-vous pas compris ?» Le père lui répondit, « C'est seulement vous qui ne comprenez pas. » L'infirmière répliqua, « Mais voyons, monsieur, c'est très bien d'avoir la foi, mais quand l'électrocardiogramme enregistre une telle chute, il n'y a plus de possibilité de vivre. L'enfant ne respire plus, il est mort. » Puis le médecin interne entra. Il venait pour nous faire tous sortir, car il pensait que nous nous disputions. Alors le père se dressa d'un bond et dit, « Vous regardez à votre instrument et au graphique enregistré, mais moi, je regarde à la promesse divine de Dieu. » Pendant 8 heures, l'enfant resta dans cet état. Le jour suivant, il allait mieux. Aujourd'hui, il est marié et père de famille. Alléluia! Cela dépend comment vous regardez et ce que vous regardez. Toutes les promesses divines sont accomplies si vous les regardez droitement. Dieu est toujours Jéhovah Jiré. Il est toujours El Shaddai. Jésus a déclaré que la parole de Dieu était une semence que le semeur semait. Lorsqu'un pommier n'est encore qu'une bouture, il porte déjà en lui chaque fruit, chaque feuille, chaque fleur. Toutes les récoltes de pommes sont déjà dans le petit arbre. Vous le prenez, vous le plantez, vous l'arrosez et vous laissez agir le soleil. Le travail du petit arbre sera de boire l'eau, de boire et boire encore. Il boit toute sa part et il grandit, puis il produira des pommes. Elles ne viendront ni d'en bas ni d'en haut, elles jailliront de l'arbre. L'homme qui est planté en Christ a en lui chacune des qualités dont il aura besoin dans sa vie journalière. La chose qui importe, c'est d'être enraciné en Jésus-Christ et de boire à ses ruisseaux d'eau vive. Il est l'inépuisable fontaine de vie, et chaque homme qui est en lui peut boire et boire à ses promesses. Un semeur sortit pour semer du grain, et une partie de la semence tomba sur le chemin. Jésus a dit, « Ce sont ceux qui entendent la parole, mais qui ne la reçoivent pas. » Les gens viennent à des réunions de réveil. Ils disent, « C'était une très bonne rencontre. » Le démon vient droit à eux et ravit la semence de leur cœur, car elle n'a pas agi en eux. Une partie de la semence tomba dans un terrain pierreux. Cette catégorie de personnes voudrait, le même soir, convertir le monde. Et à la première difficulté qui surgit, elles abandonnent tout. D'autres grains tombèrent parmi les épines, et la semence fut étouffée. Les soucis de la vie étouffent la parole, et aucun fruit ne peut venir à maturité. Des gens peuvent s'enorgueillir si facilement quand ils ont de l'argent en poche et sont confortablement habillés. La semence est étouffée par la mondanité et l'orgueil. Mais il y a des grains qui tombent dans un bon terrain et qui rapportent 30, 60 et 100 pour un. Si vous avez une terre inculte que vous désirez cultiver, la première chose que vous faites pour avoir une bonne récolte est de préparer le terrain. Vous ôtez toutes les broussailles, les ronces, les plantes rampantes, les mauvaises herbes. Vous les enlevez avec leurs racines. Si vous n'enlevez pas les racines, le résultat de votre récolte est compromis. Il en est de même lorsque vous venez à Christ. Donnez-vous à Dieu et tenez le terrain prêt, brisez-le, mouillez-le, rendez-le malléable. Puis allez et achetez la meilleure semence que vous puissiez trouver pour la planter dans ce terrain. Après avoir fait tout cela, n'allez pas chaque matin déterrer le grain pour voir s'il commence à germer, car ce faisant, vous n'aurez jamais de récolte. Que faites-vous après avoir planté une semence? Vous la confiez à la terre et vous l'abandonnez. La nature se chargera d'elle et elle en prendra soin. Vous qui désirez être sauvé ou guéri, rejetez tout ce qui rampe dans les profondeurs, toutes les pierres dans le terrain, tous les doutes, et soyez prêts à recevoir la semence. Cette semence est la parole de Dieu. Lorsque vous avez fait cela, confiez-vous en Dieu. Recevez la parole dans votre cœur, croyez-la, arrosez-la et bénissez Dieu. La victoire est toujours là. Ne déterrez pas et ne replantez pas à nouveau la semence. Ne dites pas, je ne suis pas mieux aujourd'hui. En prenant cette attitude, vous retombez à nouveau et votre guérison sera retardée. Croyez seulement et agissez comme étant maintenant guéri. Dieu est obligé de confirmer sa parole, car elle est la parole de Dieu. Cette parole vaincra Satan n'importe où, n'importe quand, sans regarder aux conditions. Lorsque Jésus rencontra Satan, il ne se défendit pas avec sa divinité, mais il employa la parole de Dieu. Le plus faible chrétien a cette puissance pour remporter la victoire. Dieu a dit, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez et il vous sera accordé. » Marc 11, 24. Une promesse divine qui est acceptée et crue par un cœur sincère et qui, comme la semence, reste seule pour grandir, produira exactement ce que Dieu a voulu lui faire dire. Elle est la vérité. Faites-en l'essai. Elle ne peut faillir si quelqu'un regarde à la promesse et non à ses symptômes. Si une personne dit, mais je ne vois aucune amélioration, ce n'est pas ce que vous voyez, mais c'est ce que vous croyez. Supposez que demain matin, le facteur vous apporte un gros colis express en disant que c'est pour vous. Vous regardez le paquet et vous découvrez qu'il s'agit d'une caisse de serpents à sonnette. Ce n'est pas positivement ce que vous désirez. Votre nom est sur la boîte, mais est-ce pour vous? Dans un sens, oui, et dans un autre sens, non. Les serpents ne sont pas à vous aussi longtemps que vous n'avez pas signé pour le paquet. Bien que votre nom est inscrit sur la caisse, et que vous pouvez avoir les serpents à sonnette si vous le désirez, néanmoins, si vous refusez de signer pour avoir cette marchandise, le facteur est obligé de reprendre le colis. S'il essaye de vous convaincre que ce paquet est bien pour vous, il ne l'est cependant pas jusqu'à ce que vous ayez à poser votre signature. Jésus ne désire pas que vous ayez une maladie ou une souffrance dans votre corps. Si le diable veut en déposer une en vous, ne la recevez pas. S'il en produit des symptômes, n'acceptez pas ce témoignage, pas plus que celui de n'importe quelle autre chose que le démon vous présenterait. Dites simplement, reprends cela, reprends-le, je refuse de le recevoir. Que se produira-t-il? Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Jacques 4, verset 7. Il s'enfuira loin de vous, il partira. mais aussi longtemps que vous direz, oui, j'ai toujours cette maladie, oui, monsieur, le diable me l'a donnée et j'en conclus que je dois l'avoir, le diable vous permettra certainement de la garder. Je veux vous parler de mon expérience de la clinique Mayo. J'étais si malade que je ne pouvais pas supporter un aliment quelconque. Même l'eau que j'absorbais ressortait par le nez et la bouche. Je ne voyais plus clair. Et Satan me disait, « Tu ne t'en relèveras pas, tu es un homme mort. » Je lui répondis, « Mais Jésus m'a donné la promesse. Alléluia ! Dieu est le meilleur docteur. Jésus est toujours le même. Toute parole de Dieu est vérité. » Je dis à ma femme, « Ouvre un bocal de haricots, donne-moi un peu de cet oignon, je veux manger. » Je n'avais pas faim, mais je savais que l'appétit viendrait. Depuis des mois que je n'avais pas mangé la moindre des choses, j'avais bu seulement de l'eau et j'en étais fatigué. Elle me demanda, « Comment sais-tu que tu es guéri ?» Je répondis, « Parce que Dieu l'a dit. » Elle posa la nourriture sur la table et je pris quelques-uns de ces bons haricots ainsi qu'un peu d'oignon. Alors le diable me dit, « Attention, quand cela entrera dans ton estomac, tu le vomiras. » Je répondis, « Satan, va-t'en, Dieu m'a guéri. » Mon petit garçon m'observait pendant que je mastiquais ces aliments, et alors il me dit, « Papa, le docteur a dit que cela pourrait te tuer. » Je répondis, « Dieu me sauvera. » Lorsque la nourriture entra dans mon estomac, et que je ressentis les contractions pour rejeter ces aliments, je pris un peu d'eau que j'avalais lentement. Je pensais, je suis guéri. Dieu m'a donné la promesse. Je me cramponnais à la promesse. Ma femme quittait la chambre. Je pris une autre fourchette de haricots et voici que les contractions recommencèrent. Je bus à nouveau un peu d'eau. Je fis un effort pour faire descendre cette nourriture. La victoire complète ne vint pas immédiatement. Mais je persévérais jour après jour. Et alléluia, Dieu confirma sa parole. Aujourd'hui, je suis complètement guéri. Je peux digérer un bon steak et tout ce que vous auriez envie de me donner. Parce que j'ai cru en la promesse, Dieu m'a guéri. Message numéro 4. Le jour de la préparation. S'il est un temps où le peuple doit être averti du jour dans lequel il vit, c'est bien notre époque. Aujourd'hui est le jour où Dieu prépare son peuple. Il y a deux esprits dans le monde. L'un est l'esprit de Dieu, l'autre celui de Satan. Satan prépare les siens, mais Dieu prépare les siens aussi. Le Seigneur a donné à chacun le privilège d'être libre de servir qui il veut. Je ne suis jamais allé au bal, mais si vous allez au bal, ne devez-vous pas vous mettre dans l'ambiance de la danse? La musique du jazz et ses rythmes vous entraînent dans ce domaine de la danse et en assurent le succès. Si vous allez à un match, vous devez vous mettre dans l'esprit du jeu pour y trouver de l'intérêt. Vous pouvez aussi rester indifférent à toutes ces choses et en être spectateur sans y participer. Il en est de même pour beaucoup de gens se rendant à l'église. Peu importe que quelque chose s'y passe, ils disent seulement, « Je suis allé à l'église. » Frères, allons à l'église pour adorer Dieu. La Bible dit que Dieu est esprit et qu'il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Or, il est possible de connaître la vérité et de manquer d'esprit, mais lorsque vous réunissez les deux, esprit et vérité, vous pouvez adorer Dieu. Nous vivons dans les derniers jours. C'est la fin de toute chose dans cet âge. L'histoire du monde va se terminer. Les livres vont se fermer. Et lorsque le nom de la dernière personne devant faire partie du corps de Christ sera inscrit, la porte de la grâce sera fermée et personne ne pourra plus entrer. Cela peut arriver aujourd'hui. Le corps de Christ ne sera pas un phénomène, il n'aura pas six doigts, il sera parfait. Chaque membre sera lavé dans le sang, né de nouveau, est prédestiné à tout ce que Dieu a préparé pour lui. Comme Satan l'a dit à Jésus, les royaumes de ce monde sont à lui. C'est une chose dure à dire, mais tous les royaumes de ce monde sont dominés et contrôlés par le diable. lorsque Satan rencontra Jésus et le transporta sur une haute montagne, montrant tous les royaumes de la terre, il lui dit qu'il pouvait en faire ce qu'il voulait. Satan savait qu'ils étaient à lui, et Jésus ne le contesta pas. Si les royaumes de ce monde étaient régis par Dieu, il n'y aurait plus de guerre. Mais aussi longtemps que Satan est au pouvoir, vous pouvez vous attendre à des guerres, à des bruits de guerre, jusqu'à ce que les prophéties soient accomplies, disant « Réjouissez-vous, cieux, et vous, saints prophètes, car les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Dieu et de son Christ, et il règnera à jamais. » Il n'y aura plus de guerre lorsque Jésus règnera dans le millénium. Mais avant cette dispensation, il doit y avoir un temps de grande préparation. L'esprit du monde est tel que les prophéties vont trouver leur accomplissement. Actuellement, les hommes révoltés contre Dieu, aimant le luxe et les plaisirs, sont manifestés. Dieu dit que dans les derniers jours, les hommes seront profanes, amis du plaisir plus que de Dieu, etc. Je regarde, je vois le diable à l'œuvre. Il est en train de mettre tout en place pour la plus grande tuerie qui ait jamais eu lieu depuis le commencement. Cependant, je suis reconnaissant de voir Dieu à l'œuvre dans son Église. Dieu prépare toujours une sortie de secours pour ceux qui désirent échapper. Vous n'êtes pas responsable d'être né un pécheur, mais vous êtes responsable de rester un pécheur. Vous êtes né dans le péché, vous êtes dans un monde où règne le mensonge. Il dépend de vous de rester comme vous êtes ou de marcher dans le chemin consacré à Dieu. Jésus dit dans Matthieu 24 que comme il en était dans les jours de Noé, ainsi il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Avant d'envoyer le jugement sur la terre, Dieu mit Noé dans l'arche, afin de le sauver, lui et toute sa maison. Noé donna alors un message au monde, disant aux hommes de son temps de venir et d'être sauvés. Mais, étant rebelles, ils refusèrent de le croire. Ils ne reçurent pas ce message, car ils marchaient selon l'esprit de leur temps. Mais quand Noé et sa famille entrèrent dans l'arche, et que Dieu lui-même ferma la porte de la miséricorde, il ne resta plus que le jugement. Que Dieu ait pitié de vous, hommes et femmes, si vous ne connaissez pas Christ quand ce temps viendra. L'époque approche où vous crierez grâce, mais lorsqu'on rejette la grâce, il ne reste plus que le jugement. Je peux me représenter et voir Noé prêchant et les gens disant « Fanatisme ! Qui a jamais entendu tomber de la pluie ? Cette arche même dont ils ont ri fut ce qui sauva Noé. Elle condamna le monde, elle sauva Noé. Il fut sauvé car il était dans l'arche préparée par Dieu. Dieu a une arche préparée aujourd'hui, le corps de Jésus-Christ qui est son Église. Ce corps sera enlevé de la terre et Dieu détruira les coupables qui ont rejeté Jésus-Christ. Mais il est encore plus insensé de rejeter le Saint-Esprit que cela l'a été de rejeter Dieu le Père dans la dispensation de Noé. Il y aura destruction pour ceux qui ne sont pas couverts par le sang lors de la venue de ce jour. Aujourd'hui est le jour de préparation. Il y a bien des années, comme le mentionne l'Ancien Testament, il y avait une année agréée du Seigneur pour ceux qui étaient esclaves. Et lorsque cette année arrivait, elle s'ouvrait par un son éclatant de trompette et les esclaves étaient libres. Mais s'ils refusaient d'être libérés, on les conduisait au temple, on plaçait leur oreille contre le poteau et on la leur perçait. Alors ils restaient au service de leur maître toute leur vie. C'est maintenant l'année agréée et le Saint-Esprit est à l'œuvre partout pour proclamer l'évangile du jubilé et de la liberté. Lorsque la proclamation de l'émancipation retentit, les esclaves dans le sud furent libérés à la lecture de ce texte. La foi vient en écoutant la parole de Dieu. Quand un homme s'assied et entend l'Évangile, lorsqu'il voit le travail de l'Esprit Saint préparant actuellement l'Église et la prétend pour l'enlèvement, s'il refuse de sortir des choses du monde, Satan le marque au fer rouge et il est rejeté du royaume de Dieu. Il y a une ligne de séparation que vous pouvez franchir et qui fera que Dieu n'aura plus jamais affaire avec vous. vous resterez un serviteur du diable pour le restant de vos jours. » Daniel dit qu'au temps marqué, le temps de la préparation, la connaissance augmentera et les hommes voyageront. L'homme a été beaucoup plus loin dans la connaissance pendant ces 100 dernières années que pendant tous les siècles précédents. Jusqu'à environ 100 ans, l'homme envoyait un message ou une lettre par le moyen d'un courrier. Aujourd'hui, nous avons le téléphone, la télévision. Dans ces temps-là, le moyen de locomotion le plus usité était le cheval, parcourant environ 30 km à l'heure. Aujourd'hui, l'avion franchit 1800 km à l'heure. Dans son chapitre 4, Ésaïe parle du comportement de la femme. « Je n'ai rien contre les femmes. Je crois qu'une bonne épouse est la meilleure chose que Dieu puisse donner à un homme. Mais aujourd'hui, la femme agit comme un homme. Elle jure comme un homme. Elle fume comme un homme. Il n'y a pour ainsi dire plus de différence. Les femmes dignes sont appréciées, mais lorsqu'elles sortent de leur position, elles sont les instruments du diable. Ne vous fâchez pas, mes sœurs. Je ne veux pas vous blesser. Ma mère avait l'habitude de me donner de l'huile le samedi soir. Je n'avais tellement assez de la prendre qu'en voyant la bouteille, je disais, « Oh, maman, cela me rend si malade. » Elle répondait, « Si cela ne te rend pas malade, cela ne te fera pas de bien. » L'Évangile est un peu comme cela. Il ne vous semblera pas bon jusqu'à ce que vous ayez été bien nettoyé par le Saint-Esprit. Et il se peut que cela vous rende malade avant de vous faire du bien. Satan examina l'homme dans le jardin d'Éden. Il ne pouvait rien faire avec lui. Il essaya avec la femme. Il prit une parole de Dieu et il mit un point d'interrogation à côté. La femme écouta. Adam ne fut pas trompé. Il était en pleine possession de toutes ses facultés. Il suivit sa femme. Il savait où il allait. Mais la femme transgressa les lois de Dieu. Et depuis lors, la femme resta la meilleure amorce du diable dans toutes les époques. Bien des femmes professent être chrétiennes. Elles font des actes et ont un habillement à faire honte. Vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits. Je suis persuadé que si vous avez le Saint-Esprit, vous sentirez différemment, vous agirez différemment et vous serez changé. Le diable prépare les siens pour l'enfer et Dieu prépare son Église pour la gloire. Dieu n'aime pas le mélange. Le monde veut le mélange, mais Dieu requiert la séparation. Le Saint-Esprit sépare. Une Église séparée pourra amener un réveil se répandant dans tout le monde. Le feu du Saint-Esprit est la nécessité de l'Église actuelle. Je me souviens qu'une fois, mon frère et moi, nous marchions dans la campagne. Nous vîmes une tortue d'eau. C'était une chose plaisante à regarder. Je souhaitais la voir courir. Mon frère dit, « Laisse-moi la prendre. » Mais quand il alla vers elle, elle se retira dans sa carapace. C'est exactement ce que font des quantités de gens quand vous leur prêchez l'Évangile. Je pris un bâton et je dis que je voulais battre la tortue si elle ne voulait pas venir et marcher pour moi. Mais elle ne bougeait pas. Je dis, je vais m'en occuper. Je l'ai prise et je l'ai plongée dans l'eau. Je disais que je voulais la noyer ou bien qu'elle marcherait. Alors, quelques bulles d'air montèrent à la surface. Que vous le baptisiez d'une manière ou d'une autre, un pécheur restera un pécheur. Cela ne lui servira à rien tant que son cœur ne sera pas changé. Savez-vous comment je suis arrivé à faire marcher la tortue? J'ai pris du papier, quelques brindilles que j'ai placées sous elle, et j'y ai mis le feu. Alors elle marcha. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'une nouvelle doxologie ou de chants nouveaux, mais d'un bon vieux réveil envoyé d'en haut par le Saint-Esprit, jetant les hommes dans la poussière et les amenant droit devant Dieu. Alors vous serez des hommes et non pas des pantins. Vous qui fumez des cigarettes et qui laissez vos femmes fumer, vous devriez rougir de vous-même. L'homme ne se mesure pas à sa taille, mais à son caractère. Ce qui nous est nécessaire actuellement, c'est une authentique et véritable manifestation du Saint-Esprit. Dieu se révèle lui-même dans son Église. Il la prépare. Un de ces jours, elle sera présentée à Christ comme une vierge pure. Elle sera habillée d'un vêtement de broderie. le doigt de Dieu l'a mis à part, et il l'a paré de joyaux et des dons du Saint-Esprit. Montrez-moi un passage dans l'Écriture indiquant que Dieu a privé l'Église de la bénédiction du Saint-Esprit. Lorsque Paul était sur le chemin de Damas, il vacilla dans la poussière, le Saint-Esprit descendit et Paul tomba comme mort. Ceux qui l'accompagnaient sentirent également cette puissance et ils furent précipités de leurs chevaux. Lorsque le prophète Daniel rencontra Dieu, il tomba à genoux, il était sans force, jusqu'à ce qu'une voix lui parle et le relève. Il se redressa et il eut une vision de Dieu. Quand un homme entre en contact avec Dieu, il perd sa force. Le Saint-Esprit entre en lui et ce qui est de l'homme doit sortir. Dieu désire que vous mouriez à vous-même et que le Saint-Esprit vienne en vous. Jésus-Christ fut cloué sur la croix et il mourut, puis il se releva dans une vie nouvelle. Vous avez à mourir à vous-même pour renaître comme nouvelles créatures en Christ. Mourez à vous-même et naissez de nouveau par l'Esprit Saint. Lorsqu'Étienne vivait, il était rempli du Saint-Esprit, non pas rempli de tabac ou d'alcool, non pas rempli de la profession de foi de l'Église, mais rempli du Saint-Esprit. Il était comme une maison en feu par un jour de grand vent. Plus on le combattait, plus il brûlait. Même lorsqu'un certain matin, le conseil le convoqua pour produire sa défense, il n'utilisa pas ce privilège, mais il défendit Christ. Il prêcha Christ et la résurrection. Il demanda au chef de sa nation pourquoi il résistait au Saint-Esprit comme l'avait fait leur père. Alors Dieu descendit sur ce petit prophète et il illumina son visage d'un halo merveilleux jusqu'à ce qu'il ressemble à un ange. Mais au lieu de l'accepter en tant que prophète de Dieu, ils se moquèrent de lui, le condamnèrent, lui jetèrent des pierres. Lui regarda en haut et dit, « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme qui est à la droite de Dieu. » Puis tandis que son visage était tout illuminé et que les pierres rebondissaient sur sa tête, Dieu le prit dans ses bras pour le bercer comme une mère le fait pour son enfant et il s'endormit en Jésus. Rien ne pouvait plus l'atteindre. Il était dans les bras de Jésus. Un jour, Jésus reviendra, et le corps meurtri d'Étienne sera changé et rendu semblable à celui de Christ qu'il avait vu debout devant le trône, en train d'intercéder. Non seulement Étienne, mais tout homme et toute femme qui se prépare rencontrera Christ dans les airs lorsqu'il reviendra. L'aimez-vous? Si vous ne connaissez pas Jésus, trouvez-le immédiatement. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ne vous relâchez pas. Le jour de la préparation est là. Bien-aimés, dans ces derniers jours, les moqueurs se lèvent comme au temps de Noé. Ils sont sages à leurs yeux, mais une connaissance sans Dieu peut détruire l'homme. Lorsque Ève mangea du fruit défendu, elle quitta l'arbre de la foi pour celui de la connaissance. À la première bouchée, elle se sépara elle-même de Dieu, et au travers d'elle, toute la race humaine. L'homme a d'abord découvert la poudre, puis la bombe atomique, la bombe à hydrogène. Il est prêt à se détruire et Satan est là pour l'aider. Mais Dieu, dans son amour, demande à son peuple de l'accepter et de croire en lui. Sa puissance encercle encore l'Église. Ses signes et ses miracles sont manifestes. Et les saints lavent leurs robes dans le sang de l'agneau. Dieu place les joyaux, les dons de guérison, le don de prophétie, les paroles de connaissance et de sagesse, le don d'interprétation, tous les dons du Saint-Esprit. Lorsqu'une femme est fiancée, elle laisse tout derrière elle. Elle se prépare pour le mariage, elle est prête à partir, si cela est nécessaire, même dans un pays étranger. Bien-aimée, le Saint-Esprit appelle son peuple, de partout. Dieu le fait entrer dans l'Église. Il lui donne le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, et bientôt, il le prendra lui. Ami pécheur, si tu n'es pas prêt, ne viendras-tu pas maintenant chercher Dieu de tout ton cœur? guérison divine pour celui qui obéit. La guérison divine est une propriété personnelle de chaque enfant de Dieu. Une attitude droite et sincère à l'égard des promesses de Dieu apportera la guérison dans votre vie. Où que vous soyez, vous êtes un chrétien si vous aimez le Seigneur. Mais vous ne pouvez pas aimer le Seigneur et pratiquer les choses du monde, car la parole de Dieu déclare, « Celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde point ses commandements est menteur, et la vérité n'est point en lui. » 1 Jean 2, verset 4. La guérison divine est basée premièrement sur la parole de Dieu, deuxièmement sur un sacrifice, troisièmement sur votre foi personnelle. Les dons divins de guérison ne donnent pas à un homme le pouvoir de guérir quiconque de son propre choix. L'imposition des mains pour la guérison du malade est un acte d'obéissance enseigné par le Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. » Marc 16, versets 17 et 18. La guérison ne dépend pas de la personne, elle est un acte d'obéissance, comme l'est également le baptême par immersion. Dans le même ordre d'idées, l'eau du baptême ne vous purifie pas de vos péchés, mais le sang de Jésus-Christ efface tous les péchés. Le baptême dans l'eau est la démonstration visible du travail intérieur que la grâce accomplit dans le cœur. En conséquence, si vous ne vous êtes pas repenti de vos péchés, si vous n'avez pas accepté Christ comme votre sauveur, votre baptême n'a aucune signification. De même, si un homme dit qu'il a la foi et qu'il n'a pas des œuvres, donnant des preuves témoignant de cette foi, il n'a rien de valable. La foi sans les œuvres est morte comme le corps sans l'esprit est mort. Il y a deux sortes de gens avec lesquels Dieu a affaire aujourd'hui. Les uns étendent de la grâce jusque sur un plan où elle n'est plus, et les autres l'étirent à l'opposé. Mais juste au milieu de la route se dresse l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois en la grâce, mais d'autre part je crois aussi en la sainteté. Ésaïe parle d'un chemin, la voie sainte. Une route correctement construite est surélevée au milieu, afin que les ordures puissent en être éliminées. Lorsqu'un homme est engendré dans le royaume de Dieu, il est placé debout droite au milieu de la route, les yeux fixés sur Christ le Sauveur. S'il ne veille pas, il se déplacera graduellement vers un des côtés, se refroidira et se figera, ou alors il partira à l'autre bord et risque d'aboutir au fanatisme. Juste au milieu du chemin, il y a les vraies traces de ceux qui veulent obéir au véritable évangile de Jésus-Christ. C'est un évangile dont vous n'avez pas à rougir. Il est la puissance et la manifestation du Saint-Esprit. Vous pouvez croire à toujours plus de grâce et tomber dans l'universalisme, faire tout ce que vous désirez et croire que vous serez sauvé, mais c'est faux. D'autres croient que si vous avez fait ceci ou cela, vous avez à jamais franchi la ligne de démarcation. Des quantités de personnes croient qu'elles ont péché contre le Saint-Esprit. Ce dont elles ont besoin, c'est de regarder à leur avocat. Dieu les ramènera en grâce. Qu'il nous aide à rester équilibrés. Il en est de même pour la guérison divine. Il y a des personnes qui déclarent avoir une sorte de pouvoir pour imposer les mains aux malades. Il y avait une femme à Sioux Falls qui fut témoin des œuvres merveilleuses du Seigneur. Quelqu'un assis près d'elle l'entendit dire, « Certainement cet homme dit la vérité, mais il doit être rempli de magie. » Pour elle, ce n'était que de la superstition. Non, ce n'est pas de la superstition, c'est la bénédiction de Dieu. Prenons Samson. Il naquit dans ce monde pour être naziréen. Ce n'était pas son désir, mais c'était la volonté de Dieu qu'il fût naziréen. Des gens essayèrent de sonder le secret de son ministère. Ils disaient, « Quelle sorte de puissance cet homme a-t-il ? Il doit sûrement prier d'une certaine manière. » La puissance de Dieu efface toujours l'homme. Tout être humain n'a rien et n'est rien en dehors de la puissance de Dieu. Les mystères de Dieu sont cachés à l'être humain. Nous devons accepter et croire. Tout ce que Dieu fait est une manifestation de sa puissance. L'homme le voit et l'accepte. Lorsque Philippe conduisit Nathanaël à Jésus, celui-ci était un peu sur la défensive, mais Jésus dit, « Voici un véritable Israélite en qui il n'y a pas de fraude. » Nathanaël dit, « Comment me connais-tu, Rabbi ?» Jésus lui répondit qu'avant que Philippe ne l'appelât, il l'avait vu sous le figuier. Certes, Nathanaël aurait pu dire, « Comment cet homme l'a-t-il su ?» Mais Nathanaël ne douta pas. Il répondit, « Tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. » Cette femme assise au bord du puits aurait pu dire de Jésus qu'il était un devin, car il avait été capable de lui révéler quelle avait été sa vie et qu'elle était dans le désordre. Mais non, elle dit, « Je vois que tu es un prophète. » Pierre aurait pu le dire lorsque Jésus lui commanda d'aller pêcher un poisson, d'ouvrir sa gueule et de prendre là une pièce de monnaie pour payer le tribut. Lorsque Jésus dit à ses disciples de se rendre en un certain lieu et de suivre un homme porteur d'une cruche d'eau et d'aller chez lui pour préparer la chambre haute, ils auraient pu aussi avoir les mêmes pensées. Mais Jésus disait qu'il savait ces choses simplement parce que le Père les lui avait révélées. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne le voie faire au Père, car tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Car le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, de sorte que vous en serez remplis d'admiration. Jean chapitre 5, versets 19 et 20. Les mêmes manifestations se produisent aujourd'hui. Les hommes s'étonnent en essayant de les expliquer. On nous abreuve d'instructions au lieu de salut. C'était déjà la même chose au début. Le prêtre connaissait tous les mots latins. Aujourd'hui, nous étudions les mots, mais nous ne connaissons pas l'auteur. Cependant, Dieu est vivant, et en ce qui le concerne, chaque personne malade est guérie. Jésus en a payé le prix au calvaire. Si les chrétiens se référant aux trois premiers chapitres de l'Épître aux Éphésiens, et pensant qu'ils sont fils et filles de Dieu parce qu'ils croient en lui, voulaient également et simplement lire les trois derniers chapitres de cet Épître, ils y trouveraient comment ils doivent vivre pour garder leur expérience. Il y a des personnes qui ont la foi, mais elles ne savent simplement pas qui elles sont, si seulement elles le savaient. La parole de Dieu est écrite par le Saint-Esprit. Elle est cachée aux sages et aux intelligents, mais elle est révélée aux enfants. Personne ne peut la comprendre autrement que par le Saint-Esprit. Jésus a dit, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir. » Le mot « voir » signifie ici « comprendre ». Vous regardez aux choses qui se produisent et vous dites, « Je ne peux pas comprendre. » Vous regardez avec vos yeux, mais vous comprenez avec le cœur. Et maintenant, si je pouvais aller vers les gens qui savent ce qu'ils sont, mais qui n'ont pas assez de foi pour écrire le chèque et le tirer sur le dépôt que Jésus a mis au calvaire, puis aller vers les gens qui ont assez de foi, mais ne savent pas comment écrire le chèque, si je pouvais réunir ces deux groupes, nous aurions une véritable Église. Deuxième message, la communion avec Dieu. Message de William Branham, prêché à Renan près de Lausanne, le lundi soir 22 août 1955. 1 Jean chapitre 1er versets 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Au commencement, Dieu créa l'homme en parfaite santé. La maladie, la mort, sont des attributs du péché. Dieu créa l'homme afin qu'il soit en communion avec lui. Dans la Genèse, nous lisons que Dieu descendit vers le soir et s'entretint avec Adam et Ève. Combien cet entretien dut être merveilleux. Aujourd'hui encore, Dieu désire l'adoration de ses enfants. Tout cœur humain soupire inconsciemment après cette communion perdue et cherche à connaître son origine, sa destinée. Tout naturellement, le cœur humain aspire à la communion avec le surnaturel. Il n'y a qu'un seul livre qui vous dise d'où vous êtes venu, où vous allez et qui vous êtes. C'est la Bible, le livre de Dieu. Tous les hommes, à quelque race qu'ils appartiennent, sont fils d'Adam. C'est la parole de Dieu qui nous l'apprend. Si vous avez besoin d'une transfusion de sang, l'homme le plus noir de l'Afrique pourrait peut-être vous donner son sang. Pourquoi ? Parce que c'est un frère. Le sang animal tuerait l'homme parce qu'il ne descend pas de l'animal. Dieu créa un homme, Adam, qui est le père de tous les humains. Nous sommes donc tous frères. Après avoir connu une merveilleuse communion avec Dieu, Adam pécha et par cela fut séparé de son Créateur. Aujourd'hui encore, c'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. Le péché peut être l'incrédulité, le vol, le mensonge, l'adultère, etc. L'homme ne croit pas vraiment en Jésus dans son cœur. C'est pourquoi il pêche. Il faut aimer le Seigneur au point de haïr le péché, de ne plus pouvoir commettre des actes qui l'attristent. Jésus-Christ est venu pour nous donner l'assurance de la vie éternelle. Son précieux sang nous purifie de tout péché. Dans sa parole, il y a des promesses quant à la guérison de notre corps et quant à la résurrection. Dieu créa Adam merveilleux et fort. Ève était belle et parfaite. Lorsqu'ils commirent le péché, tout changea pour eux, car ils avaient de ce fait perdu la communion avec leur Créateur. Ils eurent peur, ils se cachèrent, se firent des ceintures de feuilles, essayant de se couvrir eux-mêmes, mais en vain. Une raison pour laquelle nous sommes séparés de Dieu aujourd'hui, c'est que nous cherchons aussi un moyen de nous sauver nous-mêmes. Or, la Bible nous enseigne que c'est par grâce uniquement que les hommes sont sauvés. Dieu refusa les ceintures de feuilles confectionnées par nos premiers parents. Il les revêtit lui-même de peaux d'animaux afin qu'ils puissent se tenir en sa présence. Dieu est intervenu parce que les efforts des hommes furent et seront toujours incapables de couvrir et d'effacer le péché. Ce que Dieu accomplit par le sacrifice de son Fils nous purifie du péché. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de l'accepter. Adam et Ève n'ont pas dû faire quelque chose par eux-mêmes. Ils ont simplement accepté ce que Dieu fit pour eux. Un sacrifice d'animaux préfigurant celui de Christ avait été nécessaire pour couvrir leur péché. Ils ont retrouvé la communion avec le Créateur sur la base du sacrifice. Le fait d'être membre d'une église, l'éducation et l'instruction qu'on a reçue, si bonne soit-elle, ne pourront jamais nous sauver. Nous ne parlons pas contre ces choses qui sont utiles, mais nous certifions qu'elles seules ne peuvent nous sauver. Considérons combien nous, les hommes, avons failli à l'égard de ce qui nous a été ordonné. Le dernier commandement que le Seigneur donna à l'église fut de prêcher l'évangile à toute créature, d'imposer les mains aux malades et de chasser les démons. Selon Marc 16, les hommes ont tout fait sauf cela. Nous avons construit des églises, des séminaires, des écoles, etc. Ces choses sont utiles, certes, mais nous n'avons pas fait tout ce que le Seigneur a commandé. Récemment, un mahométan s'entretint avec un grand théologien qui lui demanda d'accepter Jésus-Christ. Je rapporte ici leur conversation. Votre Jésus, que peut-il bien faire de plus pour moi que mon prophète Mahomet ? Notre Jésus est ressuscité des morts et votre prophète est dans la tombe. Mais comment savez-vous qu'il est vraiment ressuscité des morts? Nous le croyons. Eh bien, prouvez-le. Nous le croyons parce que nous avons la paix du cœur. Mais nous avons une psychologie qui égale celle des chrétiens. Vous avez une Bible où il est parlé de Jésus et vous avez foi en elle. Mais nous avons le Coran écrit par Mahomet. Nous y croyons. Et les deux livres promettent la vie après la mort. Vous croyez ce que dit votre livre, je crois le mien. Vous avez eu 2000 ans pour prouver la résurrection de Jésus, et vous n'y êtes pas encore arrivé. Si Mahomet ressuscitait des morts, en 24 heures le monde entier l'aurait appris. Nous enseignons le Coran, et regardons à vous qui enseignez la Bible. Lorsque nous verrons que vous accomplissez les choses que Jésus a déclarées que vous devez faire, alors nous croirons qu'il est ressuscité des morts. Jusque-là, nous pensons que Jésus est mort comme Mahomet. Mais c'est la deuxième partie du chapitre 16 de l'évangile de Marc que vous citez. Mais on nous a enseigné que ce passage n'est pas inspiré. Mais qu'est-ce alors que votre Bible? Pour nous, le Coran est inspiré, et tout ce qu'avance Mahomet peut être prouvé par ses disciples. Oh, quel reproche pour le christianisme que celui de ce musulman! Nous avons enseigné la théologie et l'union des églises, et nous n'avons pas accompli tout ce que le Seigneur nous a ordonné de faire. Je suis certain que Jésus-Christ est ressuscité des morts, que sa puissance n'a pas changé, qu'il est le même qu'au premier siècle de l'Église. Comment pouvons-nous retrouver cette communion avec lui? À travers le sang de son Fils versé sur la croix, le chemin qui ramène à Dieu est toujours le même. C'est par le précieux sang de Christ qu'on trouve accès auprès de lui. Des lettres de recommandation, des poignées de main, le baptême d'eau même ne peuvent pas nous amener à la communion personnelle avec Dieu. Le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix est pour nous l'unique base de salut. Il ne vous suffit pas d'entendre la prédication de la parole de Dieu. Il vous faut d'abord vous séparer de l'incrédulité. Selon le texte que nous avons lu, nous devons croire que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Amen. Par la foi dans cette promesse, nous sommes amenés à la communion avec le Père et nous sommes au bénéfice de toutes les nombreuses bénédictions qui en découlent. La pureté du cœur, la joie, la paix, la bonté, la miséricorde, la guérison divine et tant d'autres grâces. Ces richesses sont pour tout le corps de Christ. La foi au sang de Christ, le Saint-Esprit, nous introduisent dans la présence du Seigneur et dans la communion spirituelle des croyants. Dans quel but Jésus-Christ est-il mort? L'Écriture nous le dit. Il a été blessé pour nos péchés, meurtri pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Quiconque vient à Dieu au travers du sacrifice de son Fils devient enfant de Dieu. Comment pouvez-vous croire aux promesses de Dieu si vous n'êtes pas né du Saint-Esprit? Si vous n'avez qu'une foi intellectuelle, vous ne connaîtrez jamais Dieu. Les signes accompagnant aujourd'hui la prédication de l'Évangile prouvent que la Bible a dit vrai. Wesley et Finney avaient un message qui convenait à leur temps. Maintenant, nous sommes beaucoup plus loin, près de la fin. Nous devons aller plus loin, accepter les signes confirmant la prédication de la parole. Seul l'homme a la possibilité de croire de tout son cœur. L'animal est dépourvu de cette faculté. Si vous voulez mettre de côté les traditions, si vous voulez croire de tout votre cœur ce que Dieu dit et méditer votre Bible, alors vous verrez de grandes choses s'accomplir. Si l'on n'est pas ainsi, je suis un faux prophète, mais si c'est la vérité, croyez alors de tout votre cœur au Seigneur Jésus. Pensez-vous que c'était un beau tableau de voir Adam et Ève fuyant loin de Dieu, vêtus de peaux ensanglantées? Non, c'était un drame. Ayant quitté le lieu de communion avec Dieu, Adam était désormais vagabond. Séparé de Christ, l'homme l'est encore et sera toujours un vagabond spirituellement parlant. Il ira dans une église, puis dans une autre, sans trouver ce après quoi il soupire. Mais lorsque l'homme vient à Dieu, que son cœur est purifié du péché, il peut croire toute la parole de Dieu. Si vous lui dites que le Seigneur sauve, qu'il guérit, il dira Amen. Amen. Dieu créa le monde par sa parole. Il parla et la chose fut. Aujourd'hui encore, lorsque ses promesses sont acceptées avec foi, il opère des guérisons et des délivrances, car il ne peut mentir à ses promesses. Lorsque Dieu vit Adam et Ève s'en aller loin de lui, il dit au serpent, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est là la première référence au Rédempteur à venir. 4000 ans plus tard, nous assistons au jugement de Jésus. Nous le voyons marcher en titubant sur le chemin de Golgotha, en portant sa croix. Ses pieds sont ensanglantés, sa robe est tachée par le sang qui tomba sur elle au cours de cette journée d'agonie. Le second Adam, entrevu déjà dans le jardin d'Éden, c'est le Seigneur Jésus portant sur la croix les péchés du monde entier. Il est meurtri pour nos iniquités. Par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Des clous percent ses mains, ses vêtements lui sont arrachés. Dans l'abandon, il sera suspendu entre le ciel et la terre, réclamant une goutte d'eau pour apaiser sa soif. Entouré du bourdonnement des insectes, piqué peut-être par une abeille qui lui abandonne son aiguillon. Le Seigneur retint en lui l'aiguillon de la mort, afin que nous n'ayons pas à souffrir de la mort éternelle. Est-ce étonnant que Paul se soit écrié, « Ô mort, où est ton aiguillon ? Ô sépulcre, où est ta victoire ? » Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Si vous l'avez fait souffrir en ne croyant pas en lui, repentez-vous, acceptez son sacrifice, mettez en lui toute votre confiance. Ô Dieu, nous croyons à ta parole et nous élevons notre foi jusqu'à toi. Amen. Message numéro 3. Qu'est-ce que le cancer? Fragment d'un message donné par William Branham le mardi soir 23 août 1955 à Renan, près de Lausanne. Les plus grands médecins admettent la guérison divine, mais bien des prédicateurs la relèguent dans le passé. Cependant, c'est justement eux qui devraient croire. Qu'est-ce que la maladie? La maladie est une conséquence du péché. Savez-vous que toute maladie vient du diable? Je ne veux pas dire pour autant que vous ayez péché. Il se peut que votre maladie soit héréditaire, se manifestant à chaque génération. Avant que l'homme connaisse la maladie, il n'y avait pas le péché. Mais lorsque le péché entra dans le monde, la maladie suivit comme conséquence. Prenons le cas de cet homme sourd-muet qui fut conduit à Jésus selon Marc 7, 32. Nous l'envoyons chez le médecin. Celui-ci regarde l'oreille, il examine la gorge, les cordes vocales, puis il déclare « Il ne peut pas parler ni entendre ». Mais pourquoi? N'a-t-il pas un tympan? N'a-t-il pas des cordes vocales? Y a-t-il quelque chose qui gêne? Ne pourrait-on pas enlever ce qui fait obstacle afin qu'il puisse parler et entendre? Dans le 90% des cas, le docteur vous dira, le nerf est mort, il est paralysé. Cependant, le système nerveux fonctionne pour tous les autres organes du corps. Alors pourquoi y a-t-il mort dans ce secteur? La parole de Dieu déclare, c'est un esprit sourd et muet. C'est un esprit de cécité. C'est un esprit de mutisme. L'épilepsie vient également du diable. Le démon de cette maladie porte aujourd'hui un joli nom, épilepsie. Mais malgré cette étiquette, c'est quand même le diable. Et Dieu le révèle dans sa parole. Si vraiment le nerf en question est mort, qui l'a tué? Et pourquoi est-il sans vie dans cette partie seulement? Le médecin fonde son jugement sur ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il peut toucher et constater. Alors il y a une cause surnaturelle. Si ce qui lie le nerf paralysé peut être ôté, la vie reviendra dans cet organe et le malade commencera à entendre, à parler, à voir. Cela ne sera peut-être pas parfait au début, mais quelque chose s'est produit. Le nerf mort a reçu une impulsion de vie. La Bible déclare, « Jésus chassa un démon qui était muet. Le démon étant sorti, le muet parla. » Luc 11, 14, Matthieu 9, 32, 12, 22. C'est un démon qui liait le malade et non pas une cause naturelle. Il faut venir à Jésus, le seul qui puisse vous aider. Parlons un peu du cancer. Qu'est-ce que le cancer? Ce nom tire sa racine du mot crabe. C'est un nom médical, mais la parole de Dieu déclare que c'est un démon, un tourmenteur. Vous qui avez un cancer, une tumeur ou la cataracte aux yeux, vous n'avez pas toujours eu cette maladie. Prenons les choses appartenant à l'ordre naturel. Elles sont le type des choses spirituelles. À votre naissance, il s'est produit quelque chose dans l'ordre naturel. À votre conversion, lorsque vous êtes né de nouveau, quelque chose a également eu lieu spirituellement. À la naissance de l'enfant, la première chose qui vient, c'est l'eau. Puis il sort aussi du sang et la vie, c'est-à-dire l'enfant. Lorsque Jésus mourut, et qu'il reçut le coup de lance, il sortit aussi l'eau et le sang, puis l'esprit qu'il avait remis entre les mains de son Père. La naissance naturelle est donc figurative de la naissance spirituelle. Dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 7, nous lisons « Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces trois-là sont un. La Parole, c'est le Fils. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. Vous ne pouvez pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit. » Et au verset suivant, Jean dit « Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre, savoir l'Esprit, l'eau et le sang, et ces trois-là sont d'accord en un. Ils sont d'accord. Ils ne sont pas un, mais ils sont d'accord. Ils rendent témoignage d'une œuvre unique. La justification par la foi, l'eau, la sanctification par le sang, et le baptême dans le Saint-Esprit, l'eau, le sang, l'Esprit. Le vautour est un oiseau qui se nourrit de chair morte. Le cancer, lui, ronge le corps de l'homme. Au début, ce ne sont que quelques cellules contusionnées, mais une vie étrangère est entrée en elle, une vie qui n'était pas au commencement. À la conception, la vie est introduite par un petit germe se trouvant dans une cellule de sang. Ce petit germe est invisible à l'œil nu, mais si vous placez la cellule de sang sous le microscope, vous voyez alors le germe bouger. C'est la plus petite forme de vie, et en elle est tout le corps. Et les cellules se développent selon leurs espèces, comme chaque semence se reproduit selon son espèce. Ce germe de vie vient de Dieu, c'est une vie surnaturelle. Mais d'où vient la vie qui est dans le cancer, dans la tumeur? Les cellules constituant un cancer affectent des formes diverses, donnant à la maladie des aspects différents. Il y a des cancers plats et étalés, d'autres sont granuleux ou bosselés, ou présentent des ramifications. Ce sont des démons. Ils n'ont point de forme. C'est un esprit qui se développe en vous par ses cellules. Il pénètre en vous, suce votre sang, vit de vous. Il fait son œuvre de mort en prenant votre vie même. Que fera le docteur? Il examinera, verra s'il peut faire quelque chose, mais si le cancer est trop avancé, il n'y a rien à faire. Il faut intervenir chirurgicalement et vous ne pourriez pas supporter l'opération. Alors il doit vous laisser aller. Si la tumeur est petite et s'il peut opérer et enlever la partie malade, alors vous avez des chances de guérir. Il n'y a donc qu'une porte de sortie. Il faut se débarrasser de cette vie étrangère. Que fait la guérison divine dans un tel cas? Le Seigneur s'occupe de la vie qui est dans la tumeur et non de la tumeur elle-même. L'Esprit de Dieu ne s'occupe pas du genre du cancer. Il rejette par sa puissance de vie la vie maligne de la tumeur. L'Esprit de vie vient rencontrer l'Esprit de mort par l'efficacité du sang de Jésus-Christ. Car dans les cellules du sang de Jésus reposait la vie même de Dieu. Alors vous partez, vous dites, je me sens mieux, mais voici une grosseur. Oubliez cette grosseur, ne la regardez pas. Vous tuez un animal, vous le mettez sur la balance, vous le pesez. Le lendemain, si vous le pesez de nouveau, la bête, plusieurs livres de son poids auront déjà disparu. Pourquoi? La vie est partie. Cela sera ainsi pendant les premiers jours, mais après 72 heures, ce corps mort commencera à gonfler, son volume sera plus gros qu'avant. Le malade se sent mieux, l'esprit de vie a chassé l'intrus, mais la tumeur morte est là, dans le corps, et le malade constate qu'il a de la fièvre. Alors il serait tenté de dire, j'ai éprouvé un mieux pendant quelques jours, mais voici, la chose est revenue. Non, c'est justement le signe que vous êtes guéri. Votre corps réagit comme il a réagi lorsque vous aviez un simple abcès à la gencive ou tout autre genre d'infection. Votre sang a pris et ramassé les impuretés de cette grosseur. Jésus a dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il s'en va dans les lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Et il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il y vient, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et prend avec lui sept autres esprits pires que lui. Selon Luc 11, versets 24 à 26. Si l'homme de la maison, c'est-à-dire la foi, ne se trouve pas là pour les empêcher de pénétrer, ils entreront et la personne sera sept fois plus malheureuse qu'avant. Ce n'est pas seulement une espérance de guérison qu'il vous faut, mais que vous sachiez dans votre cœur que quoi qu'il puisse se produire, vous êtes guéri. Si vous paraissez être moins bien et que vous vous mettiez à douter de votre guérison, votre incrédulité ouvre la porte à l'ennemi, et vous perdez le bénéfice de la victoire remportée par la foi. Cette grosseur morte en vous reprendra vie à cause de votre incrédulité. La responsabilité n'en reviendra pas au Seigneur, mais à vous-même. La parole de Dieu est infaillible en tout point. Je me dois de vous dire ces choses, et je désire que vous les receviez. Quel bénéfice retirer de laisser revenir le diable et de faire de la parole de Dieu une tromperie. Il faut que toute chose soit bien au clair dans votre cœur. Il faut que vous sachiez de quoi vous parlez. Si à la connaissance vous ajoutez l'acceptation de votre cœur, vous serez guéri. Sinon, vous vous faites du mal à vous-même. Il y en a qui pensent, voir c'est croire. Il faut enlever cette idée de votre tête. Je vois devant moi un homme, il est assez petit, il a un costume gris avec une cravate à dessin. Je crois qu'il est là parce que je le vois, mais si quelque chose ou quelqu'un s'interpose entre lui et moi, il est tout aussi présent que lorsque mes yeux le regardaient. 5 sens ont été donnés à l'homme, la vue, l'ouïe, le goût, le toucher et l'odorat. La vue ne constitue qu'un seul sens, et c'est souvent le plus défectueux de tous. Vous avez beaucoup d'illusions de vue. Et si je ne peux pas voir cet homme, mais que je puisse le toucher, je sais qu'il est là, parce que je l'ai touché. Vous entendez la musique, mais personne ne l'a jamais vu. Non, voir, ce n'est pas croire. Or, la foi est une vive représentation des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11.1. C'est encore plus réel que l'apport de vos 5 sens. Amen. Si je vous disais que la chemise blanche que je porte est rouge, vous ne le croiriez pas, car votre vue témoigne à votre esprit qu'elle est véritablement blanche. Et pourtant, si vous êtes daltonien, la couleur que vous voyez n'est pas toujours la couleur réelle. La foi, elle, ne se trompe jamais. Elle n'est pas daltonienne. Si vous croyez de tout votre cœur, il s'établit en vous une certitude de guérison. C'est tout aussi réel pour vous que ce que vous voyez de vos yeux. Vous n'avez même plus besoin qu'on prie pour vous. Tout est accompli pour vous. Vous avez déjà votre guérison. Lorsque vous venez pour avoir une bénédiction de guérison, vous désirez obtenir ce qui est hors de votre portée. Quelque chose doit se produire en vous, et non pas en Christ. Le don manifesté au travers de moi n'a pas d'autre but que d'élever votre foi jusqu'au niveau voulu. Ce qui importe donc, ce n'est pas que les prédicateurs ou moi-même nous vous touchions, mais que vous, vous touchiez Christ. Voilà pourquoi Dieu m'a donné le don. C'est pour votre foi. Amen. Message numéro 4. Le Dieu des miracles. Prédication de William Branham à Renan près de Lausanne en août 1955. Quelques Grecs dirent à Philippe, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Jean 12, versets 20 à 22. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à sa parole. Je ne veux pas spécialement développer ce texte. Je voudrais que vous soyez tous guéris ce soir. Si je pouvais le faire, je le ferais. Si votre médecin pouvait le faire, il le ferait. Mais il faut Christ et il faut votre foi en lui. Et Dieu alors accomplira la chose. Le désir de ces Grecs qui sont venus à Philippe était de voir Jésus. Combien parmi vous ont ce même désir ce soir? Tout le monde. Nous voulons tous le voir. C'est le cri du cœur humain. Nous voudrions voir Jésus. C'est cela que nous voulons pour ce soir. Réfléchissons un instant. Éloignons-nous de toute idée de fantaisie. Si Jésus est réel, aussi réel que les chrétiens le déclarent, pourquoi ne pouvons-nous pas le voir? Nous disons qu'il n'est pas mort, donc qu'il vit. Il a déclaré qu'il serait avec nous et que toutes les générations le verraient jusqu'à la fin du monde. Jésus a promis cela. Il a déclaré encore un peu de temps et les incrédules ne me verront plus, mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et toute génération a reçu la promesse qu'elle le verrait. Alors recherchons-le ce soir. Je veux le voir. Je me souviens qu'une fois, je suis monté dans ma petite cabane, il faisait froid, J'ai essayé d'allumer un feu, mais le bois ne voulait pas brûler. J'ai tourné le bouton de la radio et une sœur chantait « Je désire voir Jésus ». Ah ! Je me suis assis par terre et mes larmes commencèrent à couler. J'ai levé les deux mains et j'ai dit « Oui, Seigneur, je veux te voir ». Et vous, voulez-vous le voir ? S'il est aussi réel, pourquoi ne pouvons-nous pas le voir ? Si vous le cherchiez ce soir, quel genre de personne rechercheriez-vous ? Est-ce que vous attendriez à trouver un homme avec une longue robe ou habillé différemment des autres hommes ? Mais Jésus s'habillait tout comme les autres. S'il était ici ce soir, il aurait un complet tout comme nous. Nous ne le trouverions pas dans les grandes cathédrales. Car lorsqu'il était ici, on ne voulait pas le recevoir. Et ce soir, ce serait la même chose. On ne le recevrait pas. Iriez-vous vers un homme qui aurait une voix forte ? Non. Chercheriez-vous un homme de grande érudition à tel point qu'un homme du peuple ne pourrait le comprendre ? Non. Jésus parlait comme tous les hommes. Alors, où le trouveriez-vous ? Il faudrait le trouver parmi les gens humbles. Ce serait un homme humble, ordinaire. Que serait-il en train de faire ? De se vanter de son érudition ? De son affiliation à telle ou telle église ? Serait-il en train de se vanter d'être un guérisseur ? Non. Il serait en train de dire, « Mais ce n'est pas moi, c'est le Père qui demeure en moi qui fait les œuvres. Si tu peux croire, toutes choses sont possibles. » Il regarderait par-dessus l'auditoire, il verrait toutes ces personnes qui souffrent, et il dirait, lorsqu'elles auraient la foi, « Ma fille ou mon enfant, ta foi t'a sauvé de telle ou telle maladie. » Et si le Père lui disait encore quelque chose, il parlerait à l'auditoire, selon ce que Dieu lui dirait. C'est ce Jésus-là que nous cherchons. Son corps avec la marque des clous n'est pas encore revenu. Ce corps est assis à la droite de Dieu, mais il est ici, maintenant, sous une forme spirituelle, travaillant au travers de votre corps et du mien. C'est lui, maintenant, dont nous voyons les œuvres. On ne pouvait croire qu'il fût Dieu, alors il dit, « Si vous ne pouvez me croire, moi, alors croyez du moins à cause de ses œuvres, car les œuvres que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. » Voyez, il ne pouvait croire qu'un homme fût Dieu. Alors il dit, « Regardez en tout cas les œuvres. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je fais les œuvres de mon Père, alors croyez-moi. Le Père témoigne pour moi. Dieu est en nous l'espérance de la gloire. Oh, j'aime tellement parler de lui. » Un jour, je visitais la Floride et j'étais dans un train. J'eus une vision. Je vis un petit garçon très pauvrement habillé. Ses cheveux étaient coupés. Il avait été tué. Son petit pied avait traversé sa chaussette et était tout écrasé. Il se tenait couché sur le bord, sur le côté au bord de la route. Il y avait beaucoup d'herbes vertes, de grands rochers, beaucoup d'arbres, des pins. J'ai continué ma route vers la Floride. J'ai vu frère Bosworth. Nous étions dans une multitude comme celle-ci et je lui dis, j'ai une vision inscrite ici dans ma Bible qui doit encore se produire. Lorsque ces visions me viennent, je les écris. La voici. Et je lui décrivis le tableau en lui disant que le garçonnet serait guéri. À travers le pays, alors que je poursuivais mon voyage qui dura 2 ans, des milliers de personnes ont écrit cette vision. Cela a été publié dans les journaux un peu partout en Amérique. 2 jours après avoir eu cette vision, je m'approchais de la grande tente. Un homme vint à ma rencontre. « Frère Branham, je suis sûr que votre vision concerne mon petit garçon. Il est là derrière, mort. Il est mort depuis ce matin. Il s'est noyé dans une écluse. Ah, venez le voir. Je ne veux pas que l'employé des pompes funèbres l'emporte. » J'y suis allé avec quelques frères. Mais lorsque je vis le petit garçon, ce n'était pas celui de la vision. Celui que j'avais vu avait 8 ou 9 ans, alors que celui-ci en avait 5. Le petit garçon que j'avais vu était très mal habillé, mais celui-ci était très bien habillé. Celui que j'avais vu avait des cheveux châtains, celui-ci des cheveux noirs et droits. Ici, il n'y avait pas de rochers, pas d'herbe, pas d'arbres. Ce n'était pas la vision. Alors j'ai prié pour le réconfort du Père. Environ 2 ans plus tard, je me trouvais à Kopio, en Finlande. Et beaucoup de frères m'ont fait monter sur une tour et m'ont montré ce qu'il y avait à voir. Souvent, pendant les réunions, je ne mange pas beaucoup. Quelquefois, je jeûne pendant quelques jours. Et justement alors, j'avais jeûné pendant 4 ou 5 jours. Je fais cela parce que la parole dit que cette sorte de guérison se fait par le jeûne et la prière. J'ai dit à l'un de ceux qui me dirigeaient, « Monsieur, quelque chose va se produire. » Je ne sais pas pourquoi, je suis descendu de la tour et ai rencontré un Anglais qui buvait et demandait ce que l'on faisait là-haut. Je lui dis qu'ils étaient en train de chanter des cantiques. « Oh, je ne crois pas à cela, » dit-il. « Vous devriez avoir honte, » répliquai-je. Quelques instants plus tard, nous l'avons conduit à Jésus. Nous sommes entrés dans les voitures et nous avons commencé à descendre le long de la route. En regardant par-dessus la colline, pendant des kilomètres, je vis des gens qui couraient et une voiture qui se retournait. « C'est sûrement un accident, » dis-je. Quelques 20 minutes plus tard, nous sommes arrivés sur le lieu de l'accident. Quelques-uns de mes frères sont sortis de la voiture pour regarder ce qui était arrivé. Deux petits garçons, l'un âgé de 9 ans et l'autre de 5 ans, venaient de s'engager sur la route lorsqu'une Ford fabriquée en Amérique fit un virage très rapide et passa sur eux. Le petit corps d'un des garçonnets fut lancé très haut dans l'air, puis retomba dans l'herbe. Il était encore là, mort, un manteau posé sur lui. L'autre petit garçon respirait encore. On le mena tout de suite à l'hôpital. 300 personnes faisaient cercle autour du petit mort et le bourgmestre de la ville était arrivé. On était allé à la recherche du père et de la mère qui travaillaient très loin dans une ferme. Mes frères sortirent pour regarder le petit garçon et ils revinrent me dire « Allez le voir, frère Branham. » « Ah, non, non, je ne voulais pas. Mon fils Billy était justement de cet âge-là. Je ne voulais pas le voir. Il y avait longtemps que je n'étais pas rentré à la maison et je ne voulais pas regarder ce garçon. » Après un moment, un frère insista, « Venez, frère Branham. » Alors finalement, je suis sorti de la voiture et lorsqu'ils eurent enlevé le manteau de dessus l'enfant, je le regardais. Ses petits yeux révulsés, sa langue pendante, son petit pied écrasé à travers sa chaussette, ses chaussures avaient été arrachées, ses bras tout recroquevillés et le sang sortait de ses oreilles. C'était terrible. Je me mis à pleurer et voulus m'éloigner. Je ne sais pas jusqu'à quel point vous croyez ceci. Je ne peux vous dire que ce qui est vrai. Je sentis quelqu'un mettre sa main sur mon épaule. Je pensais que c'était un frère et je me tournais pour le voir, mais il n'y avait personne et la main était toujours sur mon épaule. Je me suis retourné et ai demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Alors j'ai commencé à marcher, mais la main me retenait. Voyez combien un homme peut être stupide. Nous ne comprenons pas les choses spirituelles. J'ai regardé le cadavre du petit garçon et j'ai dit à mon interprète qu'on enlève à nouveau ce manteau. J'ai regardé ce visage. Il me semblait avoir déjà vu ce garçon quelque part. J'ai demandé à l'interprète, est-ce que ce petit garçon est venu à une réunion de prière? Personne ne le connaissait, mais il semblait le connaître. Il me semblait le connaître. Je voulus partir, mais la main me retint encore. Je me suis arrêté, j'ai regardé. C'était le champ d'herbe, les rochers, les arbres. Il était là, ses cheveux coupés courts, son petit pied à travers la chaussette, tout exactement conforme à l'image. Oh, vous ne savez pas comment je me sentis à ce moment-là. Tous les diables et démons de l'enfer n'y pouvaient rien. Dieu avait parlé. Oh, quel sentiment! Je savais ce qui allait se produire. Je me suis tourné vers les frères et leur dit d'ouvrir leur Bible. Mais qu'y a-t-il, frère Branham, me dirent-ils? Regardez la page de garde, lisez. Ils ont commencé à lire la description du petit garçon. Mais regardez-le, regardez les arbres. C'est le petit garçon que j'ai vu il y a 2 ans. Ainsi parle le Seigneur. Si ce petit garçon n'est pas debout sur ses pieds dans 5 minutes, alors je suis un faux prophète. Oh, quelle chose extraordinaire! Restez immobile. Et j'ai parlé à l'auditoire. Tous ceux qui étaient là n'ont pas voulu croire. Je les voyais se pousser du coude et dire, c'est un fanatique. Mais ce n'est pas leur incrédulité qui a empêché la chose d'arriver. Je me suis tourné exactement comme le Seigneur me l'avait dit et j'ai prié, Père Céleste, toi qui ne peux mentir, chez nous il y a 2 ans, tu m'as montré ce garçon et tu m'as montré qu'il devait ressusciter. Oh Dieu, entends la prière de ton serviteur et que la mort ne puisse le tenir plus longtemps. Rends-lui la vie, car ainsi parle le Seigneur, il vivra. Et l'enfant a crié, a sauté sur ses pieds sans aucun mal, aussi parfait qu'un garçon puisse être. Ce miracle fut raconté tout à travers la Russie. Lorsque nous arrivâmes près de la frontière ce soir-là, il y avait des soldats russes qui se tenaient au garde-à-vous, pleins de respect. 4 soldats finnois devaient m'accompagner à travers les rues de la ville pour me permettre d'arriver au lieu de réunion. Ils se tenaient au garde-à-vous, saluant, les larmes coulant sur leurs joues. Mon interprète me raconta qu'il me disait « Nous voulons recevoir un Dieu comme celui-là. Nous croirons des choses comme celle-là. » Mais qu'est-ce qui ne va pas avec le christianisme? C'est la faiblesse de la chair. Les prédicateurs ont peur de prendre Dieu au mot. Cela est vrai. Je n'oublierai jamais ce qui s'est produit. Lorsque je suis arrivé ce soir-là, on avait donné l'ordre que personne ne soit dans les rues, même simplement pour me parler. Je n'aime pas qu'on fasse cela, mais il y avait une telle ruée qu'on m'avait gardé dans une chambre. Cela ne fait pas très bien. Je me souviens, je suis passé entre 2 rangs de soldats avec baïonnette et je suis entré dans une petite chambre dont la porte claqua. Là, une pauvre petite fille finnoise me regardait. Elle croyait avoir mal fait et se mit à trembler. Je savais que cet enfant voulait me voir. Elle était infirme. Elle avait une courroie autour d'elle, une sorte de corset de cuir par-dessus l'épaule. Une de ses jambes était plus courte que l'autre. Elle ne pouvait pas s'en servir. Elle portait un appareil orthopédique et avait 2 béquilles. Je remarquai ses cheveux ébouriffés et ses vêtements tout déchirés. J'appris plus tard que c'était une orpheline de guerre. Par charité, on lui avait donné cet appareil. Elle me regarda, puis baissa la tête, puis me regarda à nouveau. Je lui dis « Ma petite fille ». Mais elle ne pouvait pas me comprendre. Je lui fis signe. Elle sourit. Et la voici qui vint vers moi traînant sa jambe. Je restai immobile et la regardai. Quand elle fut près de moi, elle posa ses béquilles et je me demandais ce qu'elle allait faire. Elle s'accrocha à mon manteau et embrassa ma poche. Je vous promets que mon cœur se brisait. Elle écarta ses petites jupes, c'est une façon de saluer pour les petites filles de Finlande. Elle me dit merci, et je la regardais à nouveau et pensais, « Oh Dieu, même si j'étais le plus grand hypocrite du monde, tu récompenserais cette petite pour une telle foi. » Et voulant m'en aller, j'eus une vision. La petite fille marchait normalement. Bien qu'elle ne me comprît pas, je lui dis, « Ma petite, Jésus t'a guéri. » Et j'ai continué mon chemin. Ce soir-là, des piles de béquilles furent laissées de côté, car le Seigneur agit puissamment. Quand ce fut temps de partir, je fis encore vite appeler une personne. Savez-vous qui elle était? C'était justement cette petite fille qu'on mit sur l'estrade. Je dis à l'interprète, « Dites exactement ce que je dis. Ma petite fille, là-bas à l'entrée, Jésus t'a guéri. Alors assieds-toi et qu'un homme t'enlève cet appareil. Mets les mains sur les hanches et descends la main jusqu'en bas à mesure qu'ils enlèvent l'appareil, jusqu'à ce que tu sentes que ta jambe est de la même longueur que l'autre, puis viens me la montrer. » Alors nous avons appelé quelqu'un d'autre en attendant. Quelques instants plus tard, elle vint avec ses béquilles et l'appareil dans les mains, courant aussi vite qu'elle pouvait, tout à fait normalement. Jésus-Christ l'avait guérie. J'ai oublié de vous parler du deuxième petit garçon écrasé sur la route et qui avait été conduit à l'hôpital. Après 2 jours, il n'avait pas repris connaissance. Sa maman était dans tous ses états lorsqu'elle vint me trouver à l'hôtel. C'était une petite maman de 25 ans. Elle était vraiment hors d'elle-même. Elle voulait que j'aille prier pour son garçon. Le lendemain, je leur dis à elle et à son mari, « Que voulez-vous? Allez guérir mon petit garçon, monsieur, dit-elle. » « Mais je ne peux pas, lui répondis-je. Mais vous avez guéri l'autre petit garçon. Ce n'est pas la même chose. Chez nous, Dieu m'avait montré une vision à son sujet. Alors, ayez une autre vision pour mon petit garçon. » Ah, c'était une maman, cela. Comme c'était beau. Malheureusement, lui dis-je, je ne puis pas faire ces visions. C'est Jésus qui les donne. Êtes-vous chrétienne? Non. Et votre mari? Non. Pourquoi ne devenez-vous pas chrétien? Si votre petit garçon meurt, il ira au ciel, car c'est un petit enfant. Mais si vous mourrez et que vous n'êtes pas chrétien, vous ne le reverrez jamais, jamais plus. Ne voulez-vous pas être chrétien? En faisant cela, vous pourriez trouver grâce aux yeux de Dieu. Alors ils s'agenouillèrent et ils réalisèrent une réelle conversion. Le père embrassa sa femme et ils en retournèrent chez eux, mais la petite maman dit, « Oh, maintenant, allez guérir notre garçon. » Je lui dis, « Ma sœur, c'est contre les règles de notre mission que je fasse une visite personnelle, car si l'on va chez l'un et non pas chez l'autre, cela crée des sentiments d'amertume. Si le Seigneur me conduit, alors c'est différent, mais je ne puis aller ainsi. Allez chez vous, Jésus peut me donner une vision dans cette chambre, aussi bien qu'il l'a fait il y a 2 ans chez nous. Elle écouta, puis me dit, « Alors ayez une vision !» J'ajoutais, « Il se peut que Jésus ne me donne aucune vision, peut-être ne le fera-t-il pas, mais s'il le fait, je viendrai vous appeler. » Elle rentra chez elle. 10 minutes plus tard, le téléphone sonna. L'interprète le prit. « Est-ce que Frère Branham a eu une vision ?»« Non. » Alors on raccrocha l'appareil. 10 minutes après, ça recommença. Ce soir-là, lorsque je fus rentré chez moi, j'avais ma Bible sur mon cœur. Un de mes frères était avec moi, ils me dirent, « Billy, te rappelles-tu ces mauvais bonbons que nous avions achetés au Canada? Goûte à ces 2 petits morceaux de chocolat. » Généralement, je reste seul dans l'hôtel à cause des visions. Alors chacun se retira dans sa chambre. C'était là-haut, au pays du soleil de minuit, où l'on peut lire un journal dans la rue à minuit. J'allais vers la fenêtre et je regardais. Je vis des centaines de petits Finlandais venir, louant Dieu, me tenant là, je m'écriais, « Cher Père Céleste, en un jour glorieux, Jésus viendra et fera que toute chose soit renouvelée. Oh, je t'aime, Seigneur, tu es merveilleux, je t'aime de tout mon cœur, mais veux-tu être miséricordieux ?» J'entendis quelque chose. Sur une table se trouvait un vase avec 2 fleurs. Une fleur vers le sud était à moitié penchée, l'autre vers le nord penchait jusqu'en bas. Je me dis, d'où vient cela? Je regardais, voici qu'à côté de moi se tenait un ange, grand, avec une robe blanche, des cheveux noirs, un visage doux, avec les bras croisés, et qui me regardait. Que t'a donné ton frère, me dit-il? 2 morceaux de chocolat. Mange-les. Alors j'en pris un morceau, le mis dans ma bouche et commençai à manger. Il avait bon goût. Juste à ce moment-là, la fleur qui se penchait vers le nord fit un bruit et se redressa. « Qu'est-ce que cela ?» me dis-je. Géographiquement, c'est exactement comme les 2 garçons étaient tombés, l'un au sud, l'autre au nord, et celui du nord avait été ressuscité des morts. « Mange l'autre morceau, » reprit l'ange. Je le mis dans ma bouche et commençai à manger. C'était très amer. Je l'enlevai et j'entendis quelque chose. Je regardais l'autre fleur. « Mange !» me répéta l'ange. Je remis le chocolat dans ma bouche et retint ma respiration. Au moment précis où j'avalais, l'autre fleur se releva et se plaça à côté de la première. « Mais que signifie tout cela ?» me dis-je. « Allez, appelez la mère du petit garçon. Alléluia ! Dieu a entendu sa prière et le petit garçon sera guéri. » Je courus au téléphone et je poussai un grand cri et tout le monde se mit à crier, à courir. La mère du garçonnet était à l'hôpital où son enfant allait mourir. Quand elle vint au téléphone, elle cria de toutes ses forces, « Frère Branham, le petit est revenu à lui, et nous l'emportons chez nous, maintenant. » Le docteur ne trouve plus rien de mal en lui. « Oh, louange soit à l'Éternel. Est-ce que j'ai eu quelque chose à faire dans cette guérison ?»« Non, c'est la prière de la maman qui a sauvé l'enfant. » Moi, je n'ai fait que de constater que Jésus-Christ est le même, hier et aujourd'hui et éternellement. Prions. Père Céleste, viens maintenant, je te prie. Mon cœur regarde avec reconnaissance en arrière, à ces jours d'or, à ces gens si fidèles, aux grands signes et aux miracles que tu as accordés dans différentes parties du monde. Je pense aux jours glorieux où nous nous rencontrerons tous à nouveau. Oh, quel jour ce sera! Nous sommes si reconnaissants de ce que Jésus soit venu. Beaucoup de personnes sont ici ce soir, Seigneur. Je voudrais tant les guérir. Leur médecin aussi voudrait faire quelque chose pour elles. Oh, Dieu, aide ces médecins quand ils accomplissent leur travail de tout leur cœur. Donne-leur la sagesse. Ces personnes désirent vivre, mais, Père, beaucoup n'en ont plus la possibilité. Tu es le seul qui puisse aider maintenant. Oh, ne veux-tu pas le faire, Seigneur? Viens ce soir. Je leur ai dit que tu les as guéris lorsque tu mourus sur la croix. Et lorsque tu étais ici-bas, tu disais que tu ne faisais que ce que le Père te disait. Oh Dieu, alors que nous allons quitter ce merveilleux pays, répands une fois de plus ta bénédiction d'amour. Ô Dieu, bénis ce petit pays. Tu as étendu tes mains sur lui, tu l'as préservé de la guerre et tu l'as aidé. Ô Dieu, qu'il soit reconnaissant envers toi pour ces grandes choses. En temps de guerre, nous entendons dire que ce pays est semblable à un hôpital. Ô grand docteur, grand médecin, viens dans cet hôpital, que le peuple puisse te voir. Cher Père Céleste, que ce soir il en soit pour ce peuple comme pour ceux qui vinrent d'Emmaüs. Tu avais marché avec eux tout le jour, ils ne t'avaient pas reconnu, ils ne savaient pas que c'était toi, et beaucoup ici ont marché avec toi sans se rendre compte que c'était toi. Mais Père, les disciples ont réalisé ta présence parce que tu as fait quelque chose d'une certaine manière, d'une manière toute différente des autres hommes. Ne veux-tu pas faire cela ce soir encore une fois? Fais quelque chose d'extraordinaire afin qu'ils puissent savoir, comme ceux d'Emmaüs, que c'était toi. Je crois qu'ils te recevront et qu'ils rentreront chez eux dans la joie. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Cinquième message. Guérison, vision et prière pour les malades. Enregistré à Renan près de Lausanne, le vendredi 26 août 1955. Nous ne revendiquons pas le titre de guérisseur, et personnellement je suis incapable de guérir quelqu'un. Je ne suis qu'un homme, et aucun homme au monde ne peut vous guérir. Tout est entre les mains de Dieu. Je suis ici comme votre frère pour vous aider. Dans quel but? Pour la gloire de Dieu. Pourquoi voudriez-vous que je sois venu en Suisse? J'ai suffisamment de réunions en Amérique, où le travail est d'ailleurs beaucoup moins ardu qu'ici. C'est ainsi que 400 villes m'ont fait parvenir des pétitions instantes me demandant de venir. Alors pourquoi suis-je plutôt venu en Suisse? Pour vous aider. Je ne reçois pas d'argent, au contraire, cela me coûte des centaines de dollars. En Amérique, mes dépenses se montent chaque jour, que j'y sois ou non, à environ 300 dollars, et là-bas, non plus je ne reçois aucun salaire. Si je suis venu comme un imposteur, j'en répondrai devant Dieu. Mais quel intérêt aurais-je de jouer un tel rôle, puisqu'en fin de compte je serai condamné? Ami, je suis venu uniquement dans le but de vous aider. Je ne prêcherai rien que l'on ne trouve dans la Bible. Et il ne se passera devant vous rien que vous ne puissiez ensuite contrôler dans la parole de Dieu. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, et la preuve, c'est que ce qu'elle dit s'accomplit. Jésus a dit que la parole était comparable à une semence. Toute semence produit selon son espèce. Le blé donne du blé, le raisin donne du vin, et toutes les promesses de Dieu produisent ce que l'on attend d'elles. L'important, c'est d'avoir foi en Dieu. Et maintenant une question. Croyez-vous que ce que Dieu dit est vrai? Il est écrit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsqu'il était sur la terre, il l'a dit lui-même. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Par conséquent, s'il est ressuscité d'entre les morts, il accomplira ce qu'il a déclaré. Lorsqu'il a dit « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus », il voulait parler des incroyants. Tandis que pour ses disciples, il ajoutait « Mais vous, vous me verrez. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Et ce soir, Jésus désire accomplir sous vos yeux les mêmes œuvres que lorsqu'il parcourait la Palestine. Voulez-vous le recevoir? Le moment est solennel. L'ange du Seigneur est ici. Il vous entoure. Et voici, je vous vois, votre santé décline. Vous ne pouvez plus vous alimenter. Le médecin consulté suggère une opération de l'estomac. On enlève une masse mortelle, un cancer. Mais vous ne vous rétablissez pas bien. Vous êtes inquiète. vous avez prié pour venir ici, sachant que si vous veniez, vous seriez guéri. Eh bien, recevez ce que vous avez demandé. Votre foi vous a guéri. Vous êtes maintenant en bonne santé. Allez, réjouissez-vous.
Frère Branham interpelle ensuite plusieurs personnes atteintes d'affections diverses et leur déclare qu'elles sont guéries des maux qu'il nomme, note de l'éditeur.
Bonsoir, monsieur. Ayez foi en Dieu, ce Dieu devant lequel nous devrons nous tenir un jour pour rendre compte. Je vois des hommes autour de vous. On vous opère dans la tête. Non, ce n'est pas la tête, c'est dans la bouche, sur la langue. Venez ici. Seigneur, je bénis cet homme au nom de Jésus. Amen. Allez, frère, et croyez.
Bonsoir, madame.
Croyez que Dieu va honorer sa parole. Lorsque vous étiez jeune, vous avez souffert gravement des nerfs, mais maintenant c'est votre estomac. Vous ne pouviez plus digérer, vous êtes allé vous faire examiner. Le médecin était un homme fort et vêtu de gris. On vous a opéré, 3 ulcères, mais vous n'avez pu vous remettre. Votre poids n'est toujours pas normal, vous dormez mal, vous mangez peu. Dieu connaît votre vie. Je vois que vous parlez anglais.
La dame dit oui, note de l'éditeur.
Votre nom est Alice. Alice Humbert.
La dame le confirme, note de l'éditeur.
Levez la main, vous êtes guéri, croyez-le. Amis dans l'auditoire, ne laissez pas vagabonder vos esprits. Ceci est tout à fait scripturaire. En Amérique, j'entends les noms aussi, et je suis à même de les répéter, mais ici, j'ai beaucoup de mal à les prononcer. Lorsque Pierre est venu vers Jésus, Jésus lui dit, « Tu t'appelles Simon, et tu es le fils de Jonas, et Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. »
Bonsoir, madame.
C'est une dame très âgée. Ayez foi en Dieu. Vous avez été saisi lorsque vous m'avez entendu nommer la maladie de la personne précédente. Cancer. Oui, c'est très grave. Vous avez un cancer au sein droit. Mais Dieu est tout puissant. Oh Dieu, en voyant cette maman, je pense à la mienne de l'autre côté de l'océan et qui prie pour moi. Oh Dieu, veuille aider cette petite maman maintenant que la puissance du calvaire épargne sa vie. Au nom de Jésus. Amen.
Bonsoir. Nous ne nous connaissons pas, mais regardez, je sais que la moitié de cet auditoire souffre de la même maladie, du même désordre que vous.
Combien de personnes dans cet auditoire souffrent des nerfs? Levez la main.
D'innombrables mains se lèvent, note de l'éditeur.
La médecine ne peut rien contre cela. Seul Jésus est le remède. Les traitements de choc que les gens de clinique préconisent ne font souvent qu'aggraver les cas. Mais Jésus ne peut faillir. Croyez-vous cela?
Amen.
Je vois que votre état est sérieux, votre esprit est instable. Je peux chasser cet esprit, mais je ne peux l'empêcher de revenir. C'est votre foi qui l'empêchera de revenir.
Amen.
Que l'auditoire incline la tête. Ô Dieu! Au nom de Jésus, cette pauvre femme est la victime de Satan, et je sais que si quelque chose ne se produit pas maintenant, il y aura une catastrophe dans sa vie d'ici quelques mois. Satan, je te rejette et je te chasse loin d'elle maintenant. Disons tous, loué soit le Seigneur. Madame, si je vous disais que le Seigneur vous a guéri d'une affection du dos lorsque vous étiez assise, le croiriez-vous?
Amen.
Venez, madame, l'ombre de la mort plane sur vous, mais ne craignez pas, Jésus est ici pour vous guérir. Satan, toi qui as hanté cette dame, au nom de Jésus, je te réprime et je te chasse. Ne craignez plus, allez dans la joie, souriez, vous êtes libre.
Bonsoir, monsieur. Voici un frère que je ne connais pas. Pourquoi l'ai-je appelé frère, me demanderez-vous?
Un jour, Philippe rencontra Nathanaël, l'amena à Jésus, et lorsque le Seigneur le vit venir à lui, il dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Mais d'où me connais-tu ? Demanda Nathanaël. Et Jésus lui répondit, « Avant que Philippe ne t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Alors Nathanaël répartit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. » Or, c'est pour une raison semblable que j'ai appelé cet homme frère, car lorsqu'il venait vers moi, son esprit a rencontré le mien, et j'ai reconnu que c'était un chrétien. Il est venu dans un but. Certes, il n'était sans doute pas sous un figuier avant de venir, mais le même Dieu qui a révélé à Jésus le cas de Nathanaël est ici, il peut me révéler le cas de ce frère. Frère, si Dieu veut bien me révéler ce pourquoi vous êtes venu, croirez-vous de tout votre cœur? Vous souffrez d'une maladie du sang. Voici la vision. Devant moi, la Bible et l'ange. Cet homme n'est pas d'ici, il est du nord, il vient de la Belgique, il est marié, je le vois chez lui en compagnie de sa femme. Elle aussi est malade, atteinte de rhumatisme articulaire. Prions. Père céleste, sois miséricordieux envers ce frère, et au nom du Seigneur Jésus, bénis-le, afin qu'il reçoive ce qu'il est venu chercher. Au nom de Jésus, amen. Allez, frères, et que Dieu vous bénisse. Amis dans l'auditoire, croyez-vous? Si vous voulez croire, tout simplement, Dieu vous répondra. Croyez, il peut vous parler directement à votre place. Il est le même Jésus que celui qu'une femme a touché par la foi, le même Seigneur que celui qu'a rencontré Bartimée l'aveugle-né. Votre foi peut attirer son attention. Voici maintenant une dame. Nous ne nous sommes encore jamais rencontrés. Dieu sait pourquoi vous êtes venu, tandis que je l'ignore. Si j'avais le moyen d'aider l'humanité souffrante et que je ne m'en serve pas, je serais un homme impitoyable, dur et méchant. Par conséquent, je dois utiliser le don que Dieu m'a accordé, afin que vous voyiez et que vous ayez foi en son Fils. Dans sa parole, nous avons la promesse qu'il viendra faire sa demeure en nous et que nous serons à même d'accomplir les mêmes œuvres que lui jusqu'à ce qu'il revienne. Vous êtes comme cette femme samaritaine près du puits à laquelle Jésus parla et dont il découvrit la faute. Quand elle eut vu, elle dit, « Je vois que tu es un prophète. Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Et sur sa demande, Jésus lui dit qu'il était le Messie attendu. Et le fait qu'il venait de dévoiler à cette femme son état prouvait qu'il était le Christ. C'était là le signe, et c'est encore cela le signe de Christ aujourd'hui. Et 2000 ans plus tard, nous voici, vous et moi, sur cette estrade. Jésus n'est pas mort, il est au milieu de nous. Vous avez conscience d'être entouré de quelque chose qui vous communique la paix. Si cela est exact, veuillez lever la main. Un halo lumineux vous entoure. On vous examine. Sur votre sein gauche, une masse noire. Un cancer. Dieu seul peut vous guérir. L'acceptez-vous? Ô Dieu, fais miséricorde à cette dame. Épargne sa vie. Démon, démon du cancer, je t'adjure de quitter ce corps afin qu'il vive. Au nom de Jésus, amen. Continuez à croire, la vie du cancer est partie, la tumeur va tomber. Vous nous enverrez votre témoignage, que Dieu vous bénisse. Au même moment, frère Branham avise plusieurs personnes dans l'auditoire, nomme leur maladie, cancer, oppression, etc., et déclare qu'elles sont guéries, note de l'éditeur. Bonsoir, madame. Croyez-vous en Jésus de tout votre cœur? Il vous connaît. Il est ici. À ce moment, frère Branham se retourne, désigne une dame dans la salle derrière un poteau et lui dit qu'elle vient d'être guérie d'une maladie d'estomac, note de l'éditeur. Vous aussi souffrez également d'une maladie de l'estomac. Vous avez été transporté à l'hôpital, opéré, réopéré. Croyez-vous que je suis un prophète du Seigneur? Je vois que vous êtes marié. Vous priez beaucoup pour quelqu'un qui vous est cher et qui est malade des poumons, et maintenant vous croyez que Dieu peut le guérir. Seigneur Jésus, sois miséricordieux envers cette dame, et guéris-la. Amen. Allez, croyez et soyez fidèles. Vous n'aurez plus à subir d'opération. À Dieu, tout est possible.
De nouveau, frère Branham avise une femme dans l'auditoire et déclare qu'elle est guérie d'une maladie de foi. Note de l'éditeur.
Chère sœur, nous ne nous connaissons pas, mais votre foi est grande. Maintenant, c'est à peine si je puis voir l'auditoire. Vous souffrez d'une mauvaise circulation du sang dans les jambes par suite de votre travail. Vous vous affairez constamment debout autour de gens malades. Vous êtes infirmière. Vous avez une sœur jumelle, également infirmière, qui souffre du dos. Père, au nom de Jésus, guéris notre sœur et ceux qu'elle aime. Amen.
Frère Branham nomme encore quelques personnes dans l'auditoire qui souffrent du foie, des nerfs, de la tête et leur annonce qu'elles sont guéries. Note de l'éditeur.
Bonsoir, madame. Nous sommes étrangers l'un à l'autre, mais Dieu nous connaît et un jour, nous tiendrons devant lui pour lui rendre compte.
De nouveau, frère Branham s'arrête, interpelle solennellement cette fois un malade, étendu sur une civière, lui intimant l'ordre de garder une attitude déférente. Il ne s'agit pas d'une mise en scène, de peur qu'il ne lui arrive quelque chose de pire. Note de l'éditeur.
Puis, revenons à la dame sur l'estrade. Vous souffrez dans la bouche. C'est un cancer. Vous êtes la maman d'un garçon de 11 ou 12 ans qui est tuberculeux. Toute votre vie, vous avez désiré devenir chrétienne, et ces épreuves ont été permises dans le but de vous amener à trouver Jésus-Christ. Vous avez besoin de lui comme votre sauveur personnel. L'acceptez-vous? Allez, vos péchés sont pardonnés. Ayez foi en Dieu, et vous vivrez, vous et votre fils.
Frère Branham s'adresse cette fois à une femme dans l'auditoire atteinte de troubles cardiaques et lui dit que par sa foi, elle vient d'être guérie.
Voici maintenant une dame devant moi. Je désire que vous compreniez bien qu'il ne s'agit pas de lire dans l'esprit des gens. C'est Dieu qui révèle. Prenez ma main. Si Dieu veut bien me révéler ce dont vous souffrez, l'accepterez-vous? Si oui, levez la main. Vous souffrez d'une maladie de femme. Allez, vous êtes guéri et que Dieu vous bénisse. Et cette dame en robe blanche là-bas souffre de la même maladie que vous. Sa foi aussi l'a guérie. Je ne connais personne parmi vous tous. Alors comment pourrais-je connaître vos mots? C'est le Seigneur qui me les révèle et c'est votre foi qui agit. Tout à l'heure, cette dame ne savait pas quelle était la gravité de son mal, mais elle avait foi en Dieu. J'ai vu l'ange du Seigneur l'entourer. Et j'ai su ce qu'elle avait eu et quel était l'état de son cœur. Sa foi l'a guérie. Ô amis, disons tous ensemble, loué soit le Seigneur. Il est ici ce soir pour vous guérir tous.
Voici un gentil petit garçon. Tu sais, il n'y a pas si longtemps que mon fils était comme toi. J'ai aussi laissé à la maison un petit Joseph pour venir vers toi. Aimes-tu aller à l'église? Le petit garçon répond « Oui, note de l'éditeur. »
« T'a-t-on parlé de Jésus qui posait ses mains sur la tête des petits-enfants et les guérissait? Alors vois-tu, je suis venu pour t'aider en son nom. Si ce merveilleux Jésus était ici ce soir, il poserait les mains sur ta tête, te bénirait et tu serais guéri. Le crois-tu? »
Le petit garçon dit « Oui, note de l'éditeur. »
« Alors il m'a envoyé pour que je pose les mains sur ta tête et que tu sois guéri. » Tu as de l'asthme. Ô Père Céleste, je bénis ce petit garçon en ton nom et je te prie de le guérir. Délivre-le de l'asthme pour qu'il vive et devienne un homme fort. Je le bénis au nom de Jésus. Crois de tout ton cœur et désormais tout ira bien pour toi.
Madame, vous souffrez depuis longtemps déjà de l'estomac. Vous devez surveiller votre nourriture. Tout a commencé par des troubles nerveux.
Père Céleste, je bénis cette chère dame que Satan a tellement tourmentée au nom de Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, que le Dieu vivant vous bénisse. Allez en paix.
Madame, croyez de tout votre cœur. Vous portez des lunettes, mais il y a encore autre chose qui ne va pas. Veuillez mettre votre main sur la mienne. Regardez, ma main gonfle
et il se forme de petites boules qui courent sous la peau. Maintenant, je retire la main et la pose sur votre autre main. Regardez, rien ne se produit. Changez de nouveau de main. Le même phénomène que la première fois se produit. Vous souffrez d'une maladie de femme. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, je bénis cette dame et je chasse en ton nom cette maladie. Allez et ayez foi en Dieu. Cette dame assise là-bas souffre de la même maladie, et tandis que je priais pour vous, elle se disait que Dieu pouvait la guérir aussi. Est-ce exact? Eh bien, vous êtes guéri. Amen. La mort suit cette femme qui monte maintenant vers moi. Dieu seul peut la délivrer d'une fin à brève échéance, en chassant le cancer qui la ronge. Il y a ici ce soir beaucoup de cancéreux. Croyez Dieu et il vous guérira. Approchez-vous, madame. Ô Dieu, fais miséricorde à cette femme dont Satan cherche à abréger la vie. Satan, tu es vaincu, et au nom de Jésus, je t'adjure de quitter ce corps. Amen. Allez, réjouissez-vous. Ô amis, disons tous ensemble, loué soit l'Éternel. Combien parmi vous désirent être guéris ce soir? Que Dieu bénisse les milliers de personnes qui lèvent la main. Remettez-vous-en à lui. Il y a dans ce lieu une grande mesure de foi. Recevez la parole que je vous annonce. Faites confiance à Dieu. Acceptez le Seigneur Jésus et soyez guéris. Peu importe votre maladie, il vous sera fait selon votre foi. Madame, Dieu peut vous guérir de votre maladie ce soir. J'ai vu que vous vous demandiez si j'allais vous imposer les mains. Au nom de Jésus, démon, quitte notre sœur. Amen. Je n'ai pas lu dans les pensées de cette personne. C'est Jésus qui perçoit nos pensées. Cela a été écrit dans la Bible. Combien le croient? Amen. Que ceux qui désirent être guéris sachent que le Saint-Esprit est ici. Il me parle et il faut que je lui obéisse. Inclinez vos têtes. Et répétez cette prière avec moi. Ô Dieu, toi l'auteur de la vie éternelle, toi qui nous dispenses tes dons, répands la bénédiction sur ton peuple qui t'attend. Ô Jésus, je crois maintenant que tu es le Fils de Dieu. Je t'accepte comme mon sauveur et comme celui qui me guérit. Je crois que tu as été blessé pour mes iniquités, et que par tes meurtrissures, je suis guéri. Que les têtes restent inclinées. Isolez-vous avec Dieu, restez en prière. Tandis que je me tiens devant vous dans la présence de Dieu et que je vous regarde, je sais qu'il y a lutte entre le Saint-Esprit qui plane sur ce lieu et les ténèbres du dehors qui cherchent à envahir cette réunion. Les ténèbres de l'incrédulité sont l'unique obstacle qui puisse vous empêcher de le recevoir. Et je demande maintenant à Dieu de les chasser, afin que votre foi s'élève, devienne divine, pure, et que vous puissiez être sauvés et guéris. Vous sur ce lit, vous dans cette chaise, vous qui souffrez de tuberculose, vous qui êtes infirme depuis si longtemps, vous qui souffrez d'arthrite, vous tous qui êtes malades, veuillez demeurer dans une attitude déférente à l'égard du Seigneur et lui faire confiance. Ô Dieu, toi l'auteur de la vie, abaisse les regards sur ce peuple qui te désire. Satan est en train de faire tout ce qu'il peut pour le retenir, pour saper sa foi, mais nous voulons diriger nos regards vers la colline où tu as livré ton Fils, ton unique, et où il a vaincu Satan. Le ciel s'est obscurci, la terre a tremblé, les éclairs ont jailli, les tonnerres ont retenti. Jésus était la victime. Tu as accepté son sacrifice. Satan était vaincu. Et maintenant, Satan, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de quitter ces corps malades. Amen. Restons dans une attitude de reconnaissance et de louange. Dieu est à l'œuvre. Ayez une foi d'enfant, appuyez-vous sur la parole qui déclare, si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Cette parole a transformé des millions de vies, vivifié des millions de corps. Croyez simplement, sincèrement, et selon l'ordre de Jésus que nous trouvons dans Marc 16, 24, Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez donc, et vous serez sauvés, guéris, entièrement restaurés. L'âme et le corps forment un tout pour Dieu. Croyez et confessez que ce que Dieu dit est vrai. Dieu déclare, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Notez que ce verset est au présent et que vous devez le prendre comme tel. Durant les derniers 10 mois, j'ai vu des milliers de gens prendre ainsi Dieu au mot. Ils ont été glorieusement sauvés et guéris. Tous étaient guéris. Nous avons prié avec eux exactement comme je viens de le faire avec vous. Puis ils venaient nous donner leur témoignage et cela durait parfois de 21h30 à 2h du matin. Ensuite, ils repartaient remplis d'actions de grâce envers Dieu. Rappelez au Seigneur ces paroles. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Dieu a tout fait par sa parole. Et si le monde voulait seulement se rendre à l'évidence, un auditoire de 100 000 personnes et plus pourrait être guéri en un clin d'œil. Rentrez chez vous. Confessez votre guérison, dites-le en vous couchant, redites-le en vous éveillant, confessez-le sans cesse. Confessez, c'est répéter ce que Dieu dit, et cela guérit notre âme et nous amène au salut. Amen. Le plus grand miracle, c'est la guérison de l'âme. Or, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant le moment où vous devez recevoir Christ, où sa puissance divine doit faire de vous un chrétien. Jésus a déclaré qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Or, vous avez vu Dieu à l'œuvre ce soir. Par conséquent, vous devez l'accepter comme votre sauveur. Combien parmi vous désirent devenir chrétiens au sens où Jésus l'entend, en le recevant dans leur cœur? Levez-vous. C'est pour vous préparer à l'éternité que vous êtes dans le monde. Et ce soir, par un miracle de Dieu, vous pouvez devenir membre de sa famille pour toujours. N'aimeriez-vous pas être sûr qu'il a pardonné et effacé vos péchés pour toujours, savoir que vous le verrez face à face pendant toute l'éternité? Il est écrit qu'il est fidèle et juste pour pardonner toute iniquité à quiconque s'approche de lui. Que ceux qui l'acceptent restent debout. La Bible dit encore, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Certes, cela peut vous sembler trop beau, mais c'est cependant la plus grande vérité que vous puissiez saisir. Et c'est ainsi que ce soir même, votre nom sera inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Maintenant, chrétiens, prions Dieu de sauver ceux qui ont pris une décision. Le Seigneur est prêt à sauver le monde entier s'il se tourne vers Jésus-Christ. Peu importe la quantité et la gravité de vos péchés, Jésus en mourant a cloué l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Inclinez votre tête et répétez après moi. Ô Seigneur, je viens à toi comme un pécheur. Je crois que tu es mort pour mes péchés et je te remercie. Viens comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mon péché. Inscris mon nom dans ton livre de vie ce soir. Aide-moi pour ma vie, afin que je devienne un vrai chrétien spirituel. Sois jour après jour plus près de moi. Aide-moi à en gagner d'autres pour ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, un dernier mot. Je désire instamment vous recommander de lire la Bible et de ne pas vous relâcher dans la prière. Joignez-vous à une église fidèle où l'on annonce tout le conseil de Dieu. Réclamez sa force. Prions encore. Ô Père, je te rends grâce pour ce grand auditoire et parce que tu as manifesté ta toute puissance. Amen.